Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 24 février 2007, il est exactement midi dans votre poste de radio.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
Éphémère. J'invite dans vos oreilles avec, pour commencer maintenant, le supplément week-end avec l'actu BD, ciné, télé et politique et non pas télé, il n'y a pas du sport.
Ouais, suivi deux.
À 14h, le potager exclusivement avancé d'une heure.
Et ensuite
à 16h, scène transmission, 17h Big Bang, 18h vie d'ordure, 20h la Stétéro Expérience, 21h30 Stay Tuned. Vous écoutez FMR sur 89,1 MHz, nous sommes en direct de midi à 5h du matin. Bonjour Thomas.
Salut Xavier, salut tout le monde.
Bonjour, bonjour. Sabrina. Bonjour Nicolas.
Salut.
Bonjour à moi.
Bonjour.
Et oui, cette année il y a deux filles et en plus on a rajouté de la couleur dans le supplément week-end, hein, je sais pas, c'est... Ça doit être comme ça, ça doit être l'appel aux minorités, etc. Vous savez, c'est, on est en pleine période préélectorale, ça tombe bien puisqu'on a une interview de Malka et de Riz pour la face cachée de Nicolas Sarkozy. On a une spéciale politique, on a une spéciale cinéma sur le grand continent noir. Bref, en clair, le supplément week-end, une fois de plus, se met en 4 pour vous plier en 8. C'est débile. De Septagone en introduction. Documentary. Big Black Bang Halls des Septagones, c'est un Canadien qui est sur un label japonais qui s'appelle 19T. qu'on a reçu il y a un bail d'ailleurs sur cette antenne, non?
Ah, j'étais pas là moi.
Mais si, t'étais là. Il y avait Kinou qui était arrivé à la bourre.
Je m'en rappelle plus.
C'était pour le off du printemps de septembre en 2005.
Tout à fait, mais je n'étais pas là.
D'accord, ok, je le retiens. Ok, encore une fois, ma mémoire me joue des tours. Du sport n'est pas là aujourd'hui. Et donc, on a de la place autour des micros. Et du coup, il y a plein d'amis qui sont venus. Alors, je vous préviens, il y a trois illustrateurs sur cette table. Il y a un appareil photo. Bref, on fait de la radio qui est de plus en plus imagée. Sabrina est là uniquement pour vérifier que son chéri ne fait pas des bêtises. Elle a sorti d'ailleurs la massue de 2 tonnes.
Non, non, elle a vu des films aussi, elle pourra en parler.
Nicolas, bonjour.
Salut.
Oui, c'est carrément plus fort que ça. Il fait des bandes annonces télé pour le magazine, puisque on en parlera plus tout à l'heure, mais on a un planning assez serré. Ah ouais, bonjour.
Bonjour.
Mais non, plus près, plus fort.
Bonjour.
Voilà, voilà. Là, c'est mieux. Elle nous parlera de cinéma qui parle du continent noir, que cela soit des réalisateurs sur place ou de l'Afrique vue par des réalisateurs européens ou américains. Vous verrez ça tout à l'heure. On a un programme assez serré. Tout à l'heure, on a Malka Eris, donc, que l'on a interviewé à Angoulême pour La face cachée de Nicolas Sarkozy, un bouquin dont on a dit beaucoup de bien déjà sur ce plateau.
Oui. Voilà.
Et puis, ben, si vous voulez savoir un peu ce que l'on a prévu prochainement, je vous préviens. Oula, la semaine prochaine, c'est, on fait les 50 ans de Gaston Lagaffe et on va parler un peu de nouvelles mangas avec le nouveau Frédéric Boilet et, la seconde partie de L'immeuble d'en face. Le 17.
Oui, L'immeuble d'en face dessiné par Vanida, si c'est ça que tu cherchais.
Voilà, oui. Le 17, on recevra sur ce plateau Benjamin.
Ouais, un dessinateur chinois, là.
Il fait de la peinture à l'huile. Il fait de la peinture à l'huile sous Painter. D'ailleurs, l'interview de
Denis Bajram.
Voilà, elle est sortie ce matin sur Actua BD. Donc, j'ai regardé ce matin. Nah. Donc, non seulement vous avez toutes une partie des chroniques BD de cette émission qui sont disponibles à l'écrit, que vous pouvez commenter, etc., sur le site de l'émission, mais vous avez aussi le transcript de certaines interviews qui sont écrites, voilà.
Qui sont sur le site Actua BD, voilà. Pour pas le nommer.
Le 31 mars.
Donc attends, on va revenir quand même, on reçoit Benjamin, donc voilà, c'est un dessinateur Itachi Open qui fait des tueries sur Painter, voilà. Au moins c'est clair.
Oui, c'est clair. Donc le 31 mars, c'est préenregistré et je sais que Madame du Sport en ce moment attend ça avec beaucoup d'impatience.
Oui, une spéciale Kaamelott.
Voilà, et oui. Après, peut-être qu'on parlera, je sais pas, est-ce qu'il paraît, il y a
c'est
un festival
faux.
BD qui se montrait sur Toulouse, dont
paraît.
On n'a pas plus d'infos. On verra ça pour la suite dans cette émission. Bref, il y a
plein
de choses.
Nous pouvons également parler d'une spéciale sur un film, un chef-d'œuvre qui est réédité en DVD. On ne peut pas encore parler de la date, car ce n'est pas encore calé. Mais on peut vous annoncer qu'il y a une spéciale sur une suite célèbre, Highlander 2 The Quickening.
Ouais, ça va être géant, ça va être génial. Et bref, on va beaucoup
Ouch.
S'éclater.
Voilà.
Ouais, ça c'est du grand
Avec
cinéma.
Avec le grand retour de Manu dans notre équipe.
Voilà, qu'on n'aura pas vu depuis un bail. Ceci dit, on me fait signe en régie déjà que on a un flash spécial. Donc,
And now, the news.
Le flash spécial vous est présenté par Thomas. Thomas, bonjour, tu étais pas en direct à la cérémonie des Gérards.
Non, je n'y étais pas, non.
Voilà, donc la cérémonie des Gérards récompense le pire du cinéma, de la télévision et de la musique.
Oui.
C'est avant les Césars qui auront lieu...
ce soir.
Voilà, et les Oscars qui auront lieu...
Demain.
Voilà, super. Donc on peut seulement doter de tête parce qu'on n'a pas imprimé le listing.
Non, on n'a pas imprimé.
Voilà, on peut dire quel est le plus mauvais film de Chris Cornillac.
De Clovis Cornillac.
Clovis Cornillac.
Il y en a fait tellement...
Je sais plus, il y en avait plusieurs nominés.
C'était Scorpion,
Non. Non, je ne sais plus. Quel était le plus mauvais membre de la famille Depardieu ?
Gérard.
Voilà. Le plus mauvais clip mettant en scène des femmes en train sur la plage, dans la piscine ou en train de nettoyer des voitures.
Le clip de Matt Pokora.
Voilà. Le plus mauvais chanteur.
Alors, Matt Pokora aussi, je peux voter.
Oui, oui. Mais c'est lui aussi, bravo. À noter
bravo.
Que c'est des critiques. À noter que c'est des critiques officielles, c'est-à-dire qu'il y a eu Voici, Gala et tout ça, c'est des mecs qui font profession de critique et de massacrer de la starlette en longueur de journée. Et l'actrice française qui bénéficie les plus des réseaux de son mari.
Ariel Dombal.
Voilà, et la chanteuse française qui bénéficie les plus des réseaux de son mari.
Alors là
Dombal. Ariel Dombal aussi.
Oui, bravo.
Elle est chanteuse aussi.
On est horrible, hein.
Oui. C'était les news.
On va se calmer.
Bah en fait, là, on va rester dans les infos, en fait. Les infos section politique.
Oui, tout à fait.
Tout à fait, Thierry.
Et il faut dire que pendant des années, les télévisions françaises se sont dit, oh, après tout, la politique, hein, c'est ringard, ça n'intéresse personne. À chaque fois, on se fait plomber par la moindre diffusion des experts en face. Oui, mais voilà, il n'y a jamais eu autant de nouveaux inscrits sur la liste électorale qu'en décembre dernier. Ça a été véritablement une explosion. Ben, faut dire aussi que 2002, il y en a qui s'en sont un peu souvenus de travers. Ah, mais mince, mais pourquoi les socialistes ne sont pas défendus et tout? T'as voté? Non. Ah, au revoir. Bref, jamais depuis 15 ans une émission politique n'a fait autant d'audience. Par exemple, il y a 15 jours sur TF1, Nicolas Sarkozy a fait 8,2 millions de téléspectateurs et 33% de part de marché. Ségolène Royal a fait cette semaine, 8,9 millions de téléspectateurs, 37% de part de marché. C'est la plus forte audience depuis 15 ans pour une émission politique.
Et attends, il n'y a pas Le Pen encore. Le Pen, c'est celui qui fait plus d'audience.
Sachant que Le Pen a fait la meilleure audience dans les spéciales Riposte sur France 5. Mmh. Le départ plus que probable de Jacques Chirac donne un réel enjeu électoral, et ceci jusque dans la littérature. Un livre BD enquête sur un candidat, un roman sur deux des candidats théoriquement qui devraient arriver au second tour, quoique même le bouquin n'est pas sûr. Et n'oublions pas même qu'un procès en inquisition pour un journal satirique fait bouger pratiquement tout le monde, sauf une. Il n'y en a qu'une qui ne s'est pas exprimée.
Je ne sais pas.
Ségolène Royal. Ah. C'est la seule politique à ne s'être pas exprimée. Tous les autres ont pris fait cause pour Charlie Hebdo.
Là, on parle du procès de Charlie Hebdo. Hein.
Et qui c'est qui est l'avocat de Charlie Hebdo?
Oui, c'est Richard Malka.
Voilà. Livre enquête ou brûlot graphique, ça dépend un peu de votre opinion. La face cachée de Nicolas Sarkozy a été écrite solidairement par Philippe Cohen et Richard Malka. Mise en image, un dessin après tout vaut mieux qu'un long discours, disait un Corse par Rhys. Ce livre a pour objet d'étude notre ministre de l'Intérieur bien-aimé, président du parti unique de la droite et candidat à la succession de notre président. Nous allons donc, une fois dans cette radio de gauchistes médisants, oui, donc une fois cette semaine sur notre antenne, alors qu'on nous a gavé de Ségolène Royal en haut de l'affiche, son nom trois fois plus grand que celui de Mitterrand, donner la parole à l'opposition au pouvoir en parlant de Nicolas Sarkozy. Ce livre, qui se proclame première BD enquête, est une étude vraiment passionnante sur cet individu hors norme. Les citations sont réelles, les anecdotes croustillantes. Philippe Cohen est auteur de La face cachée du monde, de La face cachée du monde, voilà, journal. Je commence déjà à me planter, c'est pas bon. À notre grand regret, on ne l'a pas rencontré à Angoulême. Par contre, nous avons rencontré Richard Malka, qui est un scénariste de bande dessinée reconnu, mais qui est aussi avocat de Charlie Hebdo dans le procès sur les caricatures de Mahomet, qui s'est ouvert après l'enregistrement de cette interview, et d'une petite PME appelée Clearstream. Rhys, lui, est un dessinateur de presse, on le voit régulièrement officier dans la presse à scandale, comme Charlie Hebdo. Nous les avons rencontrés, Thomas et moi, lors du dernier festival d'Angoulême.
Malka, bonjour.
Bonjour.
Rhys, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes... pour Malka, l'adaptateur de l'ouvrage de Cohen qui est sorti chez Fayard sur Sarkozy, et Rhys, le dessinateur de La face cachée de Sarkozy, qui est coédité entre Vent d'Ouest et Fayard, vous m'arrêtez si je me trompe. Pourquoi avoir adapté ce livre en bande dessinée?
C'est pas du tout une adaptation, ça a été pensé dès l'origine pour être une bande dessinée. Philippe Cohen a fait une enquête comme si pour un article ou pour un livre. Moi, j'ai scénarisé l'enquête et Rhys l'a dessinée. L'idée, c'était que Philippe avait envie de faire une enquête sur Nicolas Sarkozy. Il se disait qu'un livre n'intéresserait que peu de personnes, les personnes qui sont habituellement intéressées par les livres politiques, et qu'une bande dessinée serait beaucoup plus grand public, et qu'à l'approche d'une élection présidentielle, il y avait un intérêt à informer sur un présidentiable, de manière à toucher y compris des gens qui s'intéressent pas forcément très près à la politique. Et par ailleurs, il considérait que Nicolas Sarkozy avait un côté caricatural qui se prêtait extrêmement bien au genre bande dessinée.
Rhys, justement, puisque tu es caricaturiste, tu bosses entre autres pour Charlie Hebdo, c'est un plaisir justement de se dire j'ai un scénario, j'ai de la matière, et je vais me lancer à long terme sur un des personnages que je fais vivre dans un journal.
Bah effectivement, c'était l'intérêt du projet, puisque d'habitude je travaille en hebdo, donc quand on fait des dessins de presse, habituellement on dessine un homme politique dans une situation un peu furtive, éphémère, quoi. Bon, là c'était l'occasion de dessiner pratiquement la vie presque entière d'un homme politique. C'est vrai que c'était unique. Enfin, donc c'était un projet qui était effectivement très intéressant.
Bon, je suis quelqu'un de droite, d'assez convaincu. Je trouve quand même que c'est assez dégueulasse cette manière, je dirais quasi, d'enfant d'école primaire, de s'attaquer aux plus petits. Quand même, Nicolas Sarkozy est parti de bien bas, moins d'1m65, pour arriver à voler un parti pour élire quelqu'un comme président, et c'était même pas lui. C'est quand même admirable, cet homme est quand même quelque chose de fabuleux.
Ah mais vous pouvez tout à fait le voir comme ça, ça me gêne pas du tout. On n'a pas voulu faire un pamphlet. On n'a pas voulu tomber dans l'excès. On a vraiment cherché à informer parce qu'on a tous le citoyen à la mémoire courte. On se rappelle des 6 derniers mois, des 2 dernières années, mais pas d'avant et pas de la carrière des hommes politiques depuis qu'ils ont débuté. Voilà, on n'a pas. Enfin, moi, de mon côté, je me suis jamais dit, je vais me faire Sarkozy. Effectivement, on fait rire à ses dépens, il faut bien l'avouer, mais ça m'aurait pas dérangé de faire le même sur Ségolène. Alors, Philippe Cohen, lui, avait eu une démarche un peu plus engagée, mais vraiment, la démarche est d'informer et qu'il y ait un fond de réalité. Alors après, on fait rire, il y a des gags, on exagère, c'est une caricature. Mais on est toujours resté très proche de la réalité.
Riz, là-dessus, sur taper plus petit ?
Non, bah, c'est toujours pareil. Il y a des hommes politiques aussi qui prêtent le flanc à la critique plus que d'autres. C'est plus facile. Le personnage se prête peut-être plus à ça, mais les situations politiques aussi dans lesquelles il se trouve, toute sa carrière aussi, depuis ses débuts à Neuilly, en passant par la période Balladur, pour faire un livre comme ça aussi, il faut un sujet consistant. Tous les hommes politiques ne se prêteraient pas peut-être à ce genre d'exercice, parce qu'il n'y a peut-être pas des choses aussi intéressantes à dire.
Vous disiez prêter, ça veut dire que eux-mêmes ils sont plus ou moins favorables, vous pensez, à ce genre de choses, ou c'est parce que il y a matière suffisamment dense?
Oui, je pense que c'est parce que c'est des hommes politiques assez amples, qui ont commencé très tôt, qui ont une carrière extrêmement riche, en rebondissements, en trahisons, en coups de poignard dans le dos, en guerre, en combat. Et c'est nécessaire pour qu'on y consacre plus de 120 pages. C'est vrai qu'il y a des hommes politiques, je pense qu'en 10 pages ça le ferait, quoi. Donc ça peut pas, tout le monde ne peut pas se prêter à cet exercice.
Ce qui est intéressant, c'est vraiment, ça a été une enquête, il y a eu du recoupement, il y a eu des témoins de sa vie privée, des témoins, je dirais, du backstage, des grandes messes politiques qui ont témoigné là-dessus. Est-ce qu'ils ont vu la BD? Et même sous le témoignage du grand bandeau noir pour cacher les yeux, ils ont dit ce qu'ils en pensaient?
Il y en a certains, oui, qui ont dit que ça les avait bien fait marrer. Je crois même que de Villepin, dans la presse, a dit que c'était son livre de chevet.
Dans le Figaro, ouais.
Et il y pense tous les matins en se rasant.
Bah, je sais pas, mais en tous les cas, ce livre l'a amusé. Voilà, on en a amusé au moins un.
Voilà. Non, alors, c'est vrai que, bizarrement, les Chiraciens ont adoré ce livre. C'est bizarre, on nous a envoyé des lettres de remerciements, comme ça.
Oui. Il y a eu des petits mots de certains qui étaient plutôt Chiraciens. Bon,
En 95, on a accusé les guignols de l'info d'avoir légèrement influencé le scrutin en rendant Chirac sympathique et en faisant remonter spectaculairement sa cote. Est-ce que vous seriez prêt à assumer la sortie des urnes en avril-mai ou justement à ce que l'on vous dira à ce moment-là?
Je crois que ça influence. Je suis pas sûr qu'un livre influence une élection nationale d'une telle ampleur. C'est pas suffisant. Là, je pense que c'est toujours un peu un fantasme. Ouais. Même les Guignols en 95, quand on a dit que ça avait favorisé Chirac, j'en doute beaucoup.
C'est Epsilon. Moi, j'ai jamais pensé que... ce serait très, très, très vaniteux de penser qu'on puisse influer comme ça à une élection, alors qu'il y a des mouvements de fond lourds. Voilà, je pense pas que ça influera quoi que ce soit.
Malka, tu es scénariste, mais... Deux jours, tu es aussi avocat, entre autres pour Charlie Hebdo, donc spécialisé dans la diffamation. Est-ce que tu penses que pour une attaque en diffamation, un livre tiendrait mieux face à un juge qu'une bande dessinée?
Alors, d'un point de vue technique, juridique, c'est extrêmement compliqué de poursuivre cet ouvrage. Parce qu'il est entre deux, on est entre la jurisprudence sur le droit à l'humour. Ça serait, si j'étais avocat de Sarkozy et qu'il venait me consulter pour attaquer ce bouquin, je m'arracherais les cheveux que j'ai déjà plus. Ce serait vraiment, vraiment compliqué. Au-delà même du fait que les éléments sont fondés sur une enquête qui, à mon sens, est vraiment sérieuse.
Rhys, toi, tu as déjà été attaqué pour diffamation lors de tes dessins en cul de lampe?
C'est moi qui l'ai défendu.
Non, en fait, non. Diffamation, c'est pas vraiment le terme. C'est plutôt... c'est quel terme qui
retient? Incitation à la haine raciale, je crois.
Ah oui, voilà.
Contre les catholiques.
Ouais. Contre les catholiques, ils ont vraiment tenté ça.
Oui. C'était au tout début de Charlie. C'était une association d'extrême droite intégriste qui considérait que faire des dessins satiriques avec le petit Jésus, c'était du racisme.
C'était pas Famille de France?
Non, c'était une autre.
C'est la griffe.
Voilà, la griffe. Et c'est vrai qu'on a eu quelques procès, mais en fait, les dessinateurs, c'est assez peu sur diffamation, parce que la diffamation, c'est quand on prétend relater des faits comme réels et qui en fait sont faux. Bon, les dessinateurs, c'est plutôt de l'humour, de la satire, de l'excès, l'outrance, quoi. C'est plutôt là-dessus.
Oui, alors faut dire que si je me rappelle bien du dessin, il invitait les lecteurs à aller chier dans les bénitiers.
Bon, enfin, c'était en représailles. C'était à l'époque où il y avait des commandos anti-avortement qui entraient dans les hôpitaux, qui souillaient le matériel pour qu'on puisse pas faire les avortements. Donc c'était pour ça aussi. Je dois le préciser.
Puisqu'on parle justement de satire, est-ce que pendant la production de l'album, vous avez été influencé par les autres parodies? Commentateur satirique sur la caractérisation du personnage, sur le dessin?
Non, pas vraiment, non, on n'a pas influencé. Je vois pas très bien quoi. Enfin, non. Influencé par qui?
C'est l'actualité qui nous influençait.
Oui, voilà. Il fallait essayer de faire en sorte que le livre colle un peu à l'actu. Bon, il y a un moment donné, il a fallu l'arrêter. Bon, y a, l'actu continue, hein. Y a des choses qui n'y sont pas parce que depuis. Bon, mais à part ça, non, qu'est-ce qui nous a influencé? C'est-à-dire que l'enjeu de ce bouquin, c'est vrai qu'au début, quand on s'est réunis tous les trois pour lancer ce projet de faire un livre un peu inédit, on savait pas trop non plus ce que ça allait donner. Est-ce que la sauce allait prendre? Comment ça allait s'articuler? Au début, on était un peu... On tâtonnait un peu au début, dans les premières pages. Puis au bout d'un moment, on a vu que ça commençait à... Finalement, que ça a pas mal fonctionné. C'est plus ça un peu qui nous a préoccupé. C'est est-ce que cette formule-là fonctionne bien? Est-ce qu'elle est viable, en fait?
Oui, parce qu'il fallait vraiment un peu tout inventer. On n'avait pas de repères. C'est la première fois qu'on faisait comme ça une bande dessinée enquête, quoi. Donc il y avait des codes à trouver, comment on fonctionnait tous les trois. Ça a été compliqué. C'était un projet lourd. Avec la limite, en fait, de ce projet, c'est l'absence de réactivité. C'est-à-dire que il y a un tel temps pour réaliser le projet, ça nous a mis un an et demi, que bah forcément là on peut pas faire la même chose sur la campagne parce que ça sortirait dans un an et plus personne n'en aura rien à faire. Donc ça c'est la limite de l'exercice.
Nous allons entamer la partie culturelle de ce journal télévisé. Est-ce que vous avez déjà été invité pour une promotion dans l'antenne de TF1?
Non.
Non.
Ça vous plairait de vous y prêter ou non?
Non.
Ça ne me gênerait pas. Je garderai ma totale liberté de parole.
Et sur Europe 1?
Non plus.
Non plus.
Parce que El Kabach, après tout, il est recrute. Le cabinet de recrutement Sarkozy, oui.
Ouais.
Pour une thèse de doctorat, puisqu'il y a une partie fiction hein, quand même qui englobe toute cette enquête, et c'est donc un doctorant qui présente son travail de thèse à un jury pluridisciplinaire et surtout pluriracial. Pour une thèse de doctorat, cela manque sérieusement de neutralité. Est-ce que vous seriez prêt à pondre la même chose sur Ségolène Royal et est-ce que vous avez déjà suffisamment d'éléments de preuve?
C'est la question que tout le monde nous pose. Quand est-ce que vous faites Ségolène Royal? Écoutez, on va attendre un peu parce que déjà là, on est un peu crevé. Et puis,
elle n'a pas encore pondu assez de sottises?
elle va nous dépasser là. Il faudra deux tomes. Non mais, il faut voir aussi un peu comment va évoluer la situation politique en France quoi, pour voir s'il y a matière.
C'est-à-dire qu'on retombe sur ce que je vous disais. Ouais. Si elle n'est pas élue, plus personne n'en aura rien à faire. Et comme il nous faut un an, on peut pas le lancer maintenant, quoi. C'est pas possible.
Sur le principe, pourquoi pas. Hein. Sur le principe, on est ouvert à tous les projets dignes d'intérêt.
Et si Le Pen est au second tour et qu'il passe?
Non, moi j'en ferai jamais sur Le Pen. J'en ferai jamais sur Le Pen parce que, alors moi, pour mon boulot de scénariste, faut vraiment que je me mette dans la tête du type, que je vive avec lui, que je ressente une certaine empathie. Mais à un moment, il m'était sympathique d'ailleurs, parce que vraiment, pour trouver les bonnes répliques, les bonnes paroles, faut que je me mette dans sa peau. Et j'ai pas envie de le faire avec Le Pen. Quoi.
D'accord. Donc tu y penses le matin en te rasant?
J'y ai pensé, ouais.
Donc je vous fais écouter un peu comment il a rasé le monsieur. Voilà. Question masochiste, est-ce qu'il vaut mieux être un ami de Nicolas Sarkozy ou le concubin de Ségolène Royal?
C'est vraiment l'image de masochisme dans les deux cas.
Joker.
D'accord. Bon, bah si on commence à entamer les jokers, hein, je crois qu'on va raccrocher là. Malka, merci beaucoup.
Merci.
Merci Rhys.
Merci.
Leur bouquin est donc sorti chez Vent d'Ouest et Fayard. Il s'appelle La face cachée de Nicolas Sarkozy. On les a rencontrés au Festival d'Angoulême janvier dernier.
Oui.
Et d'ailleurs, ils nous ont fait une très jolie dédicace. Alors, Awa, puisque tu as le bouquin sous les yeux, oui. Tu ouvres au tout début, voilà, tu tournes la page et tu as une dédicace dessinée. C'est celle du dessinateur, mais c'est l'autre, c'est la dédicace écrite qui est en haut, qui est assez rigolote.
Pour Xavier, mon dernier ouvrage avant l'empoisonnement au polonium. Polonium.
Agréable.
Enfin bon, voilà.
D'ailleurs, en plus, tu as dit, c'est une fois que Rhys t'a fait la dédicace, tu as dit, oh génial, merci. Et puis il y a quelqu'un qui était super déçu. Ouais, c'est toujours le dessinateur qui a toujours les suffrages.
Ouais, mais ça va, lui il fait le bavard en ce moment. Et crois-moi que dans les prétoires, c'est. Ah ouais, magnifique. Et d'ailleurs, si vous allez sur notre site. Sur lequel on collabore actuabd.com, vous avez le résumé régulier justement du procès Charlie Hebdo. Et
on apprend aussi que Johan Sfar se brise les poignets à faire les dessins du procès
et qui sortira la veille du délibéré.
Ah d'accord.
A attaqué
C'est le journal Charlie Hebdo qui a été attaqué, ce qu'on disait dans l'interview, pour avoir publié les images de Mahomet qui ont été faites par la presse danoise.
Ah oui,
et avoir complété à côté, mais en fait ils disent eux-mêmes que c'est l'extrémisme religieux qu'ils combattaient et absolument pas une religion. Donc voilà, ça n'a rien
Merci.
À voir. mais de rien. Juste une chose supplémentaire à dire à propos de la caricature. Si vous avez la TNT ou le câble, je ne sais pas, et que vous regardez de temps à autre l'émission Un Monde de Bulles qui est sur la chaîne Sénat, oui. Sur la chaîne parlementaire qui est produite en fait par le Sénat, c'est la seule émission BD qui est consacrée au 9e art, mais qui est consacrée intégralement au 9e art, mais surtout la semaine prochaine, samedi prochain à 16h. Il y aura une émission spéciale présidentielle de 45 minutes, caricature-moi un politique, où Jean-Philippe Lefebvre recevra donc des caricaturistes, Cabu, Plantu, Rhys, Charb, Luz, Mochoise, qui faisait les grosses têtes dans Pilote, Maester, Volinsky.
Ah oui.
Et en phase 2, qui c'est qu'il y aura? Roland Dumas, Michel Rocard, Edith Cresson, Jean-Claude Gaudin, Jean-Marie Le Pen.
Ah ouais, tout bord quand même.
De tout bord.
D'accord.
Et pas forcément siégeant au Sénat. Donc ça va plutôt être intéressant. C'est samedi prochain à 16h. Rediffusion lundi à 18h45, mardi à 14h, mercredi 7 à midi.
Ah oui.
Et dimanche à 11 mars à 11h, on en reparlera dans le supplément week-end.
Ça risque d'être intéressant puisque justement ce sera les caricaturistes qui seront face aux mecs qui dessinent. Donc
Après, est-ce qu'ils vont la ramener vraiment face à Le Pen et tout ça? C'est... Sachant que Le Pen est vraiment un tribun, mais une bête de scène, donc il peut très bien retourner la situation à son avantage.
Ça, ouais.
Moi, je me demande s'il y a une confrontation Cabu-Le Pen, à mon avis. Et à la régie finale qui me dit qu'il est 12h29 minutes et 45 secondes sur l'horloge atomique de la radio. Et ça veut dire une chose. Thomas?
Pardon, excuse-moi.
Qu'est-ce qui se passe à cette heure-ci?
Où ça?
À 12h30.
À 12h30, c'est les pubs.
L'espoir veut que la tête passe, tête bosse, perte au basket, Air Max et casquette bosse. La poisse, toujours côté à la queue. Qu'est-ce la légende veut qu'on m'appelle chien de la
queue. Je comprends rien à ce qu'il dit.
Samedi 24 au vent du sud.
S'arrête aux frites, merguez, Y plus frites, mayonnaise, gay.
Et article du 9-3.
Pipite la bœuf, qu'on ait un qui fasse peu. Y'a la poche et les poulets.
Zephyo est une de ces grosses voix qui essaie de maintenir l'esprit hardcore du rap français.
Incité, la légende dit, tu portes un string, t'es open toi. Quand t'as mis une grande culotte, tu fais de la peine quoi.
Avec des textes sans concession et son flow heurté.
Mais le hijab, la légende veut qu'on leur écarte les jambes de force ou de gré. On passe à la scène, donne au cache de l'entrée.
Samedi 24, au vent du sud, c'est Fiu.
La légende dit que certaines pour rester vierges le faisaient par OLJ.
La déesse du feu dans la mythologie brésilienne, Angra.
Ouais!
En
énorme.
Concert le 25 février au Havana. Power metal progressif, mélodique et symphonique. Angra le 25 février au Havana.
Vous écoutez le supplément week-end sur FMR, les midi et 31 minutes et 35 secondes. On se fait une petite coupure musicale. Restez avec nous, on va encore parler de politique. Et là, ben, du coup, on va faire un petit clin d'œil aux gens formidables. Parlez mal poli.
Les gens formidables, le 11 septembre 2001, n'ont pas dit bien fait pour la gueule aux Américains. Les gens formidables, le 21 avril 2002, on votait Jospin et ça fait qu'il se la pète un peu. Les gens formidables ne se mettent jamais en pétard en affirmant des conneries qu'ils regretteraient plus tard. Mais s'il le faut, ils disent ce qu'ils pensent haut et fort de ces sujets sur lesquels tout le monde est d'accord. Les gens formidables voudraient améliorer le sort de ceux qui n'ont plus rien pour vivre et dorment dehors. Ils donnent un peu de leur temps, vont au resto du cœur pour exiger qu'ils fassent de la soupe un peu meilleure. Les gens formidables dans le bus, on est étonné quand ils ne laissent pas leur place aux personnes âgées. Mais c'est pour pouvoir leur être plaisant davantage, pour leur dire désolé, vous ne faites pas du tout votre âge. Sectaire d'exclure que ça puisse pas faire trois. Les gens formidables trient leurs ordures depuis longtemps. C'est même comme ça qu'ils distinguent le MEDEF du gouvernement. Ils ont des poubelles pour le verre, le plastique, le carton. Et font le boulot des industriels pour pas un rond. Formidables s'occupent d'artistes handicapés qui font des tableaux en peignant avec leurs pieds. Comme c'est pas très beau pour les faire acheter aux passants, ils disent que c'est des handicapés non-voyants. Les gens formidables disent la vérité aux enfants, leur mettent dans la tête les phrases toutes faites des grands. Ça en fait des petits adultes inquiets ou futiles, bref, le genre de gamin à faire fuir un pédophile. Ça ne leur poserait pas de problème si leur fils leur présentait un jour l'homme qu'il aime. Ils sont même plutôt déçus que ça ne soit pas le cas, à moins que ça soit ça qui fait que ça ne les gênerait pas. Les gens formidables distinguent l'amour et le sexe et ne retombent amoureux qu'une fois séparés de leur ex. Les gens formidables pensent que sans exagérer, faudrait que le profit cesse un peu de tout gouverner. Même si ça n'en empêche pas certains de trouver Sarkozy formidable.
La fin du retour de la chanson, c'est un album que je passe souvent, oui, je le reconnais, je le confesse, mon seigneur. On ne va pas parler de bande dessinée immédiatement, on va plutôt parler de littérature, puisqu'il s'agit du nouveau bouquin co-écrit par Albert Algou et Pascal Fioretto, Le Pacte Secret. C'est chez Alma Michel, donc il y a deux personnes formidables, justement. Voilà, en couverture. Oui, non mais on fait pas de la télé encore, Thomas. Puisque donc on retrouve les deux héros modernes de cette époque troublée. Octobre 2004, Nicolas Sarkozy est encore au ministère du budget. Ségolène Royal vient tout juste de conquérir la région Charente-Poitou. Aucun des deux ne songe réellement à ce moment-là d'être candidat au présidentiel en 2007. Non, ça fait un peu loin, 2007. Pourtant, un étrange concours de circonstances font que les deux futurs challengers vont faire cause commune dans l'ombre et le secret. Tout commence par de mystérieux coups de fil, des rendez-vous à la sauvette, dignes des plus mauvais romans de gare, et cette légende ignorée, le talisman ultime.
Ça fait peur.
Non, attends, je me suis trompé d'effet, c'était celui-là que je voulais. Le talisman ultime.
C'est beaucoup mieux. Tu remonteras l'émission en MP3.
Tu parles. Ce talisman ultime, celui qui a sauvé la République française depuis 1789. Un objet qui personnifie le pouvoir et qui n'a de pouvoir justement que par les personnes qui représentent l'État au plus haut poste du pouvoir. Mais si cet objet est bénéfique, il faut un contrepoint négatif, tel le yin et le yang. Et ce sera un lieu chargé d'histoire et de malédiction. Sarkozy et Royal vont vite découvrir que non seulement leur mystérieux interlocuteur, c'est tous deux, mais qu'en plus, il existe des dynasties liées à la sauvegarde de la République. Des hommes et des femmes préparés à la lutte contre un ennemi mortel, les royalistes, survivalistes de la première heure, qui ont juré d'avoir la peau de la gueuse. Telle une course à l'échalote, cette lutte vaine contre d'occultes forces dignes de l'anti-France va souder les deux ennemis démocratiques. Car quel plus grand péril pour ces hommes politiques républicains, pardon, hommes et femmes politiques républicains, pardon, personnalités politiques républicaines, qu'un éventuel retour de la royauté. Le 25e président de la France sera le dernier. Oui, mais qui de Royal ou de Sarkozy sera ce président? Et surtout, que vont-ils pouvoir faire à ce précieux talisman? Albert Algou et Pascal Fioretto nous offrent une aventure palpitante à vous laisser hors d'haleine et montrent les coulisses des notables hors des ors de la République. Croyez-moi que cela déménage et que le Da Vinci Code peut se rhabiller avec son intrigue abracadabrante, tiré par les cheveux, car le pacte secret parle d'une réalité qui concerne toutes les puissances de la Terre. La sauvegarde de la République française, le chantre de la liberté, de l'égalité et de la consorité, fraternité, enfin ce que vous voulez. C'est la bravitude cette chronique. Si la lecture de cette fiction est un vrai polar, elle est surtout bourrée de détails sur l'actualité de la politique, soit sérieuse, soit frivole, de ces trois dernières années. D'après vous, pourquoi Ségolène Royal parle d'envoyer l'armée dans les banlieues? Et pourquoi Nicolas Sarkozy s'est tout d'un coup assagi. Que l'on soit lecteur du Canard Enchaîné ou que l'on ne manque jamais un 20h du TF1, les faits évoqués ressurgissent pour mieux vous faire hurler de rire. Un bon polar, mais surtout, c'est une immense rigolade qu'ont écrit Pascal Fioretto et Albert Algou. Le pacte secret, c'est chez Alma Michel. Franchement, je me suis poilé de rire à le lire. Si on peut spoiler pour autre chose.
Ce qu'il y a de rigolo, c'est quand tu lis le résumé derrière, si tu veux bien remettre ton effet là.
Attends, ouais, d'accord.
En rouvrant les dossiers les plus secrets de la République, ils vont découvrir effarés la terrible réponse à d'insolubles énigmes. Qu'est-ce qui faisait grimper Deschanel aux arbres? Qui marabouta Giscard? Pourquoi Mitterrand ne dormait-il pas à l'Elysée? Comment Giscard est-il devenu sourd?
On se pose des questions, oui.
Mais...
Je vois que ça rigole. C'est pourtant pas de la BD, attention, hein, c'est de la littérature, hein, mais va falloir. En tout cas, Albert Algou m'avait promis que j'allais bien m'éclater en le lisant, et c'est exactement le cas. Si après vous êtes un peu plus dans le genre politique, j'aime bien les colistes, mais j'aime savoir pour qui je vote, à regarder à la Maison Blanche le lundi soir sur la 4 ou autre chose, sachez que Grégory Jarry, qui est l'un des cofondateurs des éditions FBLB, vient de sortir Savoir pour qui voter est important. C'est un roman photo qui revient sur la logique électorale et le traitement médiatique d'une campagne présidentielle, avec de nombreux acteurs qui sont prêtés au jeu. Les déclarations des candidats, le rôle des journalistes, la pression des sondages, les événements de dernière minute dont s'empare l'opinion, tout y est, jusqu'à la grosse surprise de l'issue du scrutin. Et il faut savoir une chose, c'est que c'est un roman photo qui est complètement délirant là-dessus, mais que chaque jour, une page du livre est publiée sur le blog de Grégory Jarry, élections au pluriel 2007.biz. On mettra le lien sur le site internet de la radio. Et à ce rythme, eh ben, le résultat des élections sera publié le jour du premier tour. Mais les plus impatients peuvent d'ores et déjà le connaître, eh ben, en achetant le livre. Savoir pour qui voter est important, c'est aux éditions FBLB, et c'est par Grégory Jarry. Et c'est vraiment un truc qui est assez rigolo. Et franchement, moi, de ce que j'ai lu justement sur le site internet, c'est poilant, c'est sympa et ça vaut le coup d'œil. Voilà, non, vous n'avez pas l'air convaincu. Hein.
Ah si, si, enfin, ouais.
D'accord, tout le monde sera privé de dessert tout à l'heure. Privé de dessert. Golden Man, le premier tome, vient de sortir aux éditions Chiaopan. Cette fois-ci, on revient sur la bande dessinée. Un scénario de Haming et dessin de Haying. Imaginez que l'homme le plus riche de la planète, le plus grand capitaliste de tous les temps, Harry Ross, non, j'ai pas dit William G. Gates III, vient de décéder d'une maladie rare et incurable. Sa fortune n'a pu le sauver, finalement, on n'est qu'un homme. Ou plus exactement, le médecin qui a réussi à découvrir un moyen de le guérir a été retenu en otage le temps que son prestigieux patient meurt. C'est un jeune garçon inexpérimenté qui en sera l'héritier, Brad. Et après, la comparaison avec Largo Winch s'arrête ici. Brad n'a rien d'un baroudeur, d'un gars réellement dégourdi ou extraverti. Il a plutôt fui son père pour s'adonner à sa passion, la coiffure pour animaux. C'est donc un Figaro pour canidés qui se retrouve à gérer un empire puissant comme un pays européen. Alors évidemment, il est gentil le garçon avec ses rêves, ses idéaux et sa petite gueule, mais d'après vous, combien de temps va-t-il survivre dans un milieu où tout le monde a des dents très longues et personne n'aime les cadeaux ? Ni encore moins les petits chiens-chiens. Ouf, ouf. Une histoire sentimentale très shoujo manga, une impression accentuée par une inspiration directe du graphisme et de la mise en page des œuvres de, du groupe Clamp. Alors non, c'est pas franchement novateur. On se passionne pas forcément d'ailleurs à la lecture, mais à mon avis, pour la petite nièce, ce sera l'histoire sentimentale qui fera plein de petites étoiles dans les yeux. Ce sera trop mignon à voir et vous serez très content. Haiming et Haying, Golden Man, le premier tome vient de sortir, c'est chez Chiaopan. Oui, toi.
C'est juste pour quand même dire que.
Parle plus fort.
C'est tout moche quand même.
Ah, c'est légèrement inspiré de Clamp, mais on peut pas dire qu'ils aient encore franchement atteint leur qualité technique.
Non, mais excusez-moi, Clamp dessine mieux.
T'as pas vu leur premier fanzine, hein, mais bon.
Si, si.
Ah, très honnêtement, enfin, moi perso, je suis pas fan non plus de Clamp.
Moi j'ai eu du mal.
C'est hyper.
J'ai eu du mal. L'histoire est super convenue, mais après, bon, quand même, c'est sympa quoi. Mais je pense que pour un gamin, ce sera idéal. Mm-hmm. T'abandonnes ça chez ta petite sœur, ça va être nickel.
Ça manque un peu de couleur pour un gamin. Attends, on a des bons trucs dans la production franco-belge, quoi.
Bah ouais, mais maintenant les gamins ils s'intéressent qu'à la manga, ça. Tu veux de la couleur, tu vas en avoir. C'est tout en bas de la pile.
Ouais.
Chen Weidong au scénario et Pen Chiao au dessin, ça s'appelle Les Contes du Villageois. Le premier cycle, Un monde idéal en 5 tomes, le quatrième vient d'arriver, il s'appelle Le Phare, c'est toujours chez Chiaopan. Et après être entré dans un cirque au plein milieu d'une folie, et ben le jeune adolescent Ayun se retrouve propulsé sur une île fantastique. Vous savez, l'île mystérieuse, c'est à peu près ça. Une île où les gens tentent de concilier travail et loisirs, joie et quotidien. Au début, le jeune garçon, qui a toujours vécu le travail comme une peine, ne comprend absolument pas l'enthousiasme des habitants. À vrai dire, ça le dépasse complètement. Et même guidé par Anan, un costume de grand lapin débonnaire qui en fait cache une fille, eh ben Ayu est complètement largué dans cette histoire. D'ailleurs, ça ne va pas s'arranger quand il va se faire engager par un cirque pour tenir un rôle dans un spectacle. À milieu de son ancien boulot de chariste, cela va sans dire. Mais après tout, cette ville offre justement des opportunités pour que sa vie s'épanouisse. Et c'est le moment où jamais Caillou puisse changer son destin. Un conte coloré qui veut faire oublier la noirceur du monde pour en révéler ses bonheurs. La série s'appelle Les Contes Villageois. La première partie de cette série s'appelle Un Monde Idéal. Et le quatrième album sur les cinq de cette histoire s'appelle Le Phare. C'est de Chen Weidong au scénario, Peng Chao au dessin, et c'est édité en France chez Chiaopan. Et toujours des mêmes auteurs, et ben Thomas, lui, il a découvert autre chose. Puisque justement, Benjamin, dans un de ses bouquins, disait « Mais moi, j'en ai marre, on me demande à chaque fois de faire une adaptation des romans historiques. » Et plus exactement, et ben Thomas s'est attaqué à l'adaptation en bande dessinée d'un roman de 1500 pages. Excuse-moi, oui, pardon.
Oui, je disais... Voilà, donc c'est l'adaptation du fameux Voyage en Occident, ou plus connu aussi sous le nom de La Légende du Roi des Singes, Pérégrination vers l'Ouest.
Voilà, il a trois noms différents.
Voilà, c'est écrit par... le roman d'origine est écrit par Wu Cheng, il a été écrit au XVIe siècle, donc c'est un truc super populaire en Chine, voilà.
C'est un très très grand traditionnel, et voilà. Qui a inspiré beaucoup de monde.
Inspiré beaucoup de monde, et donc voilà.
C'est pas la première fois qu'on en parle dans cette émission, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Alors si je vous dis roi singe qui manipule bien les arts martiaux, un bâton magique, il va avoir un nuage magique aussi à un moment donné, ouais, ça vous dit rien?
Dragon Ball!
Voilà, parfait!
Gagné!
Et donc, Toriyama s'est aussi inspiré de cette légende. Il y a eu Stephen Chow aussi qui avait réalisé Shaolin Soccer, qui a fait une adaptation de cette légende. Et donc, c'est édité chez Chiaopan, s'appelle Le Voyage en Occident, c'est le tome 1, La naissance du roi, du beau singe roi, de Chen Weidong et Pen Chao, la même équipe que pour la BD que tu viens de chroniquer. Et alors en fait, on suit les pérégrinations du roi singe qui se fait élire donc roi par sa tribu de singes, qui va apprendre la vie éternelle auprès d'un grand maître chinois sur Python Rocheux, voilà, qui va apprendre à maîtriser les...
Il a rien inventé, Toriyama.
Eh non.
Et il aurait dû éditer en Chine.
Donc c'est pour... Voilà... Après, il va voir comment on peut se transformer en plusieurs animaux, etc. Et enfin, moi, bizarrement, j'ai pas accroché à cette adaptation en BD, parce que moi, le trait, ça m'a pas du tout plu. Je trouve ça confus, c'est assez grossier, t'as même des images floues à un moment donné. C'est vraiment pas...
On a eu une autre adaptation par des Hongkongais, je ne sais plus, je crois que c'était chez Glena ou chez Kana, je ne sais plus si c'était sorti. Mmh. C'était en noir et blanc, assez symbolique et tout, et c'est vrai que c'était pas évident à lire, parce que là aussi, ils voulaient essayer de donner un graphisme différent. Là, c'est plus manga quand même.
Oui, tout à fait. Moi personnellement, le dessin ne m'a pas trop plu. Après, les personnages, bon, c'est vrai que c'est rigolo parce que le roi singe, il est assez énervant et exaspérant, mais il est sympa quand même. C'est un mec qui fout la zone, mais partout où il va, même dans les temples les plus reculés et tout. Et bon, c'est ça qui est rigolo. Il a un sang gène incroyable, il a aucun savoir vivre et tout. Et là, je pense que le bouquin est intéressant dans la mesure où les gens qui sont venus au manga par Dragon Ball, justement, qui connaissent justement la légende de Sangoku avec la queue, tout ça.
Pas moi.
Toi, tu connais pas? Eh bien, tu peux déjà commencer par l'adaptation Assez fidèle. Et justement, c'est là que tu vois le travail d'adaptation de Toriyama, où même il y a beaucoup de d'œuvres de divertissement qui viennent du Japon ou de Chine sur cette légende-là. Il y a même le Final Fantasy IX qui reprend cette légende aussi. Donc c'est pour ça, il faut pas s'étonner de voir toujours un personnage avec une queue de singe et un bâton. Bon, voilà. Après, tu dis, ouais, ils ont tous copié. Ben non, ils se sont tous inspirés de ce bouquin.
Du grand livre de
la légende du roi singe du XVIe siècle.
Qui est disponible en traduction française sur un site. On mettra les coordonnées sur le site de l'émission. Oui. Et sinon, donc, le deuxième tome du Voyage en Occident, C'est ça, c'est le.
Le voyage en Occident.
Voilà.
Tout à fait.
Oui, c'est sous ce nom-là que c'est sorti en France. Donc vient de sortir là aussi chez Chaopan. Il va arriver incessamment sous peu. Et donc c'est adapté par Chen Weidong et Peng Chao.
Peng Chao. Voilà. Et c'est vraiment. Attendez-vous si vous voulez commencer cette série, mais c'est fleuve. Hein, c'est beaucoup de tomes à venir à acheter après. Hein, donc faut savoir à quoi.
Prenez un abonnement.
Voilà.
Moi je trouve que les dessins ils assurent. Hein. Mm. Personnellement je trouve ça très chouette, à part les trames qui sont utilisées un peu.
Chen Weidong, Chen Weidong est un scénariste qui est très connu en Chine, dans le milieu très petit d'ailleurs de la bande dessinée, puisque en fait il a 45 ans et il dessine énormément. Et Peng Chao, lui, c'est vrai qu'il a un dessin assez protéiforme et plutôt intéressant. Justement, il est capable de faire de la couleur assez cartoonesque et proche, je vais dire, de la bande dessinée enfantine. Et d'un autre côté, il est capable de faire des trucs manga avec tous les effets graphiques. Donc voilà.
Moi j'ai trouvé un certain charme justement par rapport à Golden Man ou quoi, qui est hyper
carré, mais t'as pas vu l'autre BD, donc justement des mêmes auteurs, et tu verras que là vraiment ils ont ces deux là ils ont vraiment une grande palette. On va parler un peu de trucs tendres et mignons.
Oui, tendres surtout, ouais. C'est là par contre on est vraiment dans du japonais.
Il le retrouve.
Voilà, c'était en dessous de la pile. Et donc, je vais commencer par Love Me Tender.
Love Me True. Never Wait. Ok.
Voilà. Et c'est une manga éditée chez Taifu Comics. C'est le tome 1, Love Me Tender, dessiné par la mangaka Kiki. Kiki, et ça raconte.
C'était une tentative du monde, Thomas.
Voilà, c'est le tome 1 et ça raconte l'histoire de Sae. C'est un jeune garçon dormant à droite à gauche. Il rencontre un jour Nao, très belle jeune fille, mais vraiment très belle, avec du charme et tout. Sauf que en fait, c'est un travesti. Et, il se trouve que Sae est bisexuel et mannequin. C'est vraiment un mannequin professionnel. Et ils ont un ami commun, qui s'appelle Kazuki, qui va le rejoindre chez Nao. Ils vont tous trois entamer une vie de colocataire. Et donc cette diva
sans Jessica, on précise.
Et donc cette diva a commencé. Donc je vous laisse évidemment imaginer. Il y en a un qui est bi, l'autre qui est travesti, un autre.
C'est un casting en démol, quoi.
Voilà, qui est bon. Alors voilà, c'est un prétexte à des situations cocasses, des malentendus. Tiens, machin, il est plus attiré par lui et par là. Tiens, finalement, lui, quand il sort du bain, même si je sais que c'est un garçon, il y a quand même un champ féminin assez prononcé. Voilà. Et alors c'est une prétexte à opposition de caractères divers et variés. C'est assez divertissant à lire, c'est agréable. On en discutait avec Nico tout à l'heure hors antenne. Moi j'aime bien le style. Bon après faut apprécier, bah, c'est surtout centré sur les personnages. Il y a beaucoup de dégradés en gris et tout. Il y a très peu de décors et c'est vraiment c'est l'histoire, c'est centré sur les personnages. Donc si vous aimez un peu les personnages un peu fouillés à la, on va dire, bon, je vais faire des raccourcis un peu à la nana, ou voilà, où il y a vraiment des personnages auxquels tu peux t'identifier et pas vraiment des stéréotypes, ça c'est vraiment un manga pour vous. Et justement, c'est édité chez Taifu Comics, et il y avait déjà une série de. Une autre manga qui avait été édité chez eux qui s'appelle No Bra. Et c'était.
Oui!
Et c'était vraiment la version ado. C'est quasiment la même histoire, c'est-à-dire c'était un mec qui s'habillait comme une fille, et le jeune héros, c'était un mec un peu timide et tout, et puis il savait que c'était un mec, mais quand même il était sensible au charme féminin qu'il avait. Et là c'est un peu pareil, mais là sauf que là c'est les gars qui s'assument totalement. Le mec il est bi, il le dit. À un moment donné, bon, je vais pas trop spoiler, mais il trompe un couple, il couche avec la femme sans que le mari s'en rende compte, il couche avec le mari sans que la femme s'en rende compte, il les trompe tous les deux. C'est un peu voilà, c'est
la suite en fait, maintenant ouais, s'assume quoi.
C'est la suite, voilà. Et donc voilà, ça s'appelle Love Me Tender, c'est édité chez Taifu Comics, c'est le tome 1 et c'est dessiné et scénarisé par Kiki. J'ai oublié de dire, c'est dans la collection chez Taifu Comics, dans la collection Taifu Josei.
Toujours dans la même ambiance, je veux dire.
Pas vraiment, mais ça s'adresse un peu au même style de public. Alors par contre là, vraiment c'est mon coup de cœur. Alors j'ai pas été vraiment emballé en voyant le pitch quand tu m'as passé ça. Je me suis dit oh, c'est bon, encore une manga sur un timide otaku, bon ça va quoi. On a eu 15 000 histoires comme ça, le mec il sait pas parler aux filles, je suis tout timide, nanana.
Te fous pas de la gueule ton producteur, merci.
Oh mais t'es guéri maintenant.
Alors, continue.
Alors, ça s'appelle Le Garçon du Train. Moi aussi, je pars à l'aventure. C'est l'auteur est Wataru Watanabe et c'est une adaptation d'une œuvre originale de Itori Nakano. Alors, le titre original, ça s'appelle Densha Otoko et il faut savoir qu'au Japon, c'est extrêmement connu. Il y a eu une série télé, un film live, il y a eu la. Xavier, tu me disais qu'il y avait une retranscription. Bon, je vais d'abord parler de l'histoire parce que pour suivre un petit
sinon,
peu.
Sinon, on va pas s'en sortir.
C'est l'histoire d'un jeune otaku qui vit dans sa chambre entouré de posters, mais à n'en plus finir, il est fan de Japanimation, il collectionne des figurines, des CD, des goodies.
Attention, c'est une histoire vraie.
Hein, une histoire vraie, tout à fait.
Voilà.
Et puis, bon, voilà, il est super fan de, voilà, tiens, il connaît toute l'histoire des doubleurs de telle série et tout. Et il est atteint effectivement d'une timidité maladive. Dans sa vie, il n'a jamais parlé plus de 10 secondes à une fille. Sauf que, on ne sait pas pourquoi, sous une impulsion soudaine, il est dans un train à un moment donné et il tient tête à un gars bourré. C'est-à-dire le mec, il commence à être violent, il va frapper une jeune fille. Et lui, eh ben, il se lève et puis il va arrêter la main du mec et puis il dit non, c'est pas comme ça qu'on parle à des jeunes filles. Il faut pas se tenir, c'est pas comme une façon de se tenir. Et là, et alors il transpire de partout. Qu'est-ce qu'il m'a pris ? Et il va être remercié par tous les occupants du wagon, dont la jeune fille. Et lui, alors évidemment, il lui dit quel est ton contact ? Ah ! Et là, il s'en va en courant. Et bon, évidemment, il avait signé des autographes à d'autres et puis il a donc communiqué les coordonnées à cette fameuse jeune fille qui va essayer de le recontacter en lui envoyant.
Oui, parce que en fait il y a eu des articles dans les journaux, je crois que c'est comme ça qu'ils sont retrouvés la trace l'un l'autre.
Non, pas vraiment, parce qu'en fait dans l'histoire peut-être originale c'est comme ça, là c'est une adaptation, et là elle le recontacte en lui envoyant deux tasses de marque Hermès. Et là, le mec, alors, il n'a pas d'amis, et ses amis à lui, ce sont juste des contacts d'autres otaku qui sont face à leur PC sur un forum de chatter sur internet.
Sur un BBS, hein,
voilà. Et les autres otaku, ils disent, mais qu'est-ce que t'as reçu? Alors, il a reçu une lettre avec deux tasses et tout. Oh, mais ça veut dire ça, mais non, faut pas que tu y répondes, t'es malade, et tu vas pas tout foutre en l'air, non, il faut que tu répondes au contraire. Et après, il y a une fille otaku au milieu qui dit, ouais, moi, si on me répondait pour me remercier, je serais vachement contente et tout. Et il y a plein de doubles pages comme ça, où l'auteur se plaît à,
Faut noter que les discussions depuis ont été publiques, puisque justement le forum qui était plutôt privé, les transcriptions ont été mis sur le net de manière ouverte et ont été d'ailleurs pour les curieux ont été traduites en anglais. Donc c'est à lire, c'est assez étonnant d'ailleurs. Les dialogues sont vraiment surprenants.
Oui, c'est une histoire célèbre et donc il va être progressivement conseillé par les autres otaku via PC interposé. Est-ce qu'il faut que je lui réponde ? Est-ce qu'il faut que je l'appelle? Alors déjà ça va être une histoire mais sur trois chapitres pour est-ce qu'il faut que je l'appelle, tiens c'est fébrile, il faut que je prenne le numéro de téléphone et tout. C'est à la fois pas pathétique parce que l'auteur a vraiment il écrit le monde des otaku avec tendresse, c'est-à-dire que c'est des mecs, bon tu vois que ce sont des asociaux mais c'est pas vraiment des boutonneux et tout, il les prend vraiment en sympathie. Alors évidemment
il en est un d'ailleurs à mon avis.
Oui, il y a beaucoup de gags genre les mecs qui sont passionnés de Gundam, les figurines articulées, ouais trop fort, là c'est super rare, je vais l'acheter à un prix d'or parce que c'était rouge et puis c'était juste les essais avant que ce soit l'épisode pilote qui soit validé et tout. Et puis à un moment donné il y a des personnages qui prennent la pose comme Gendo Ikari avec les gants devant la bouche.
Oui, donc si vous avez pas vu Neo Genesis Evangelion, vous êtes
voilà
largué.
Mais vous avez des astérisques pour dire référence à Evangelion, référence à Gundam, etc. Donc c'est assez rigolo pour celui qui connaît. Et
j'ai
vraiment
du mal à lire ce genre de choses quand même.
Et c'est vraiment attendrissant et
mais c'est étonnant, c'est je sais pas, moi c'était bien avant Mythique et tout ça et avant
ouais c'est
bon, d'accord, OK.
Parce que c'est... Et voilà, mais c'est vrai que c'est assez rare pour être souligné. Il y a beaucoup de mangas qui s'intéressent à des otaku, mais vraiment de base. Genre, ils vont mettre 46 tomes à essayer d'approcher la fille qu'ils aiment bien. Et là, non, là c'est attendrissant. Le dessin, je le trouve super bien. L'auteur s'amuse à jouer avec les distorsions de narration en utilisant les icônes, les smileys, tout ça. Donc c'est vraiment, mon coup de cœur. Voilà, Le Garçon du Train, tome 1.
T'as un problème mental?
Non, t'as un problème sentimental.
Non, c'est mental.
Mental. Voilà. Garçon du Train, donc c'est de Wataru Watanabe, adapté de Densha Otoko, l'œuvre de Itori Nakano. le garçon du train tome 1, et c'était chez Taifu Comics.
Voilà, et c'est vraiment un lien. Là aussi, on mettra, si je les retrouve d'ailleurs, parce que c'est vraiment étonnant. C'est les échanges qui ont eu lieu sur les forums et tout ça, c'est à lire. C'est vraiment. Et donc, il y a eu une série télé, un film qui a été fait, et je pense que peut-être ils vont passer au dessin animé. Donc, s'il le faut, on va peut-être voir ça en France. Voilà. Donc, on tient. Ça sera rigolo, tiens, avec l'arrivée de la chaîne No Life qui est prévue courant mars sur la Freebox.
Il y tient, hein, sa chaîne.
j'ai appris qui était derrière. C'est en fait c'est l'équipe qui faisait les documentaires des jeux vidéo sur Game One. Donc c'est une équipe de journalistes qui sont très spécialisés justement dans l'électronique et dans les jeux vidéo et la musique rock et tout ça. Donc ça devrait, je pense que ça va quoi. C'est des gens qui sont plutôt.
Et sinon, Nicolas Yawa, c'est un style de BD sur lequel vous portez naturellement ou Awa, tu nous as dit c'est pas vraiment le style de BD que tu lisais d'habitude.
Toi, manga, moi j'ai eu ma période, j'en ai lu beaucoup moins depuis un moment, mais justement j'avais été hyper fan de Video Girl, qui était quand même le truc
Ça c'est le truc pour séduire les otaku, c'est nickel.
Quand t'es ado et tout là, c'était parfait quoi.
Ah ouais, moi aussi.
Il est comme moi, Yotamo Teushi.
Je suis dans les vidéos club. Vite, il faut que je réponde mon magnétoscope.
Aussi, quelle chance il a, j'aurais bien aimé tomber sur Video Girl aussi. Et toi Sabrina, toi c'est plus shoujo
Moi j'aime bien les shonen aussi. Les cinéma.
Non mais on parle pas mal. Le yao, bouffe, là, c'est pas les nem. Le manga.
Non, shonen.
Japonais là.
Shonen, c'est les adressés à des publics mâles.
Moi aussi j'aimerais bien des nem shonen.
Après.
Allez, ça va, il pleut dehors. Attends, on n'est pas pressé pour sortir de suite.
Mais
enfin, mince.
Pour toi.
On va changer d'ambiance.
On a perdu Awa.
On va changer littéralement d'ambiance. Je viens de retrouver le CD, Thomas. Ouf. On va pouvoir passer.
Envoie d'abord le jingle cinéma, peut-être.
D'accord, ok, si je le retrouve.
Padumpa. Cinéma, si.
Non. La partie cinéma vous est présentée en Dolby Mono sur onde par Thomas, Awa et Nicolas.
This was the building.
Vous écoutez le supplément week-end sur Radio FMR, 13h04. Thomas ?
Oui, donc nous avons eu droit au morceau de David Bowie, I'm Deranged, qui était sur la BO de...
Ghost Rider ?
Non, de Lost Highway, c'est pas vraiment le même style.
donc, ça suit vachement le conducteur, merci Thomas, fait l'effort de les annoncer pourtant. Bon,
donc nous allons parler du dernier, de la dernière merde, on va dire, de David Lynch. Enfin, la dernière, c'est la première merde qu'il fait. Hein,
oui, parce que quand on entend parler Thomas de Lynch en général, c'est pas le discours qui tient, quoi.
Non, prends ça dans ta gueule.
D'habitude, je suis à genoux et puis je dis oui, merci Dieu, voilà. Et donc là, c'est, ça, il s'agit d'Inland Empire à prononcer en capitale, parce que Lynch a une petite coquetterie. Il a demandé que Inland Empire soit tout le temps écrit en capitale. Alors on a eu des exemples déjà de films comme ça, Seven avec le V qui c'était un 7, ou Alien 3 avec le 3 au cube. Ou,
oui, voilà, mais ça, oui mais ça va, c'était pas de la casse. Parce que là, il va falloir laisser les lettres en majuscules, ça pète un peu quoi.
Oui voilà. Bon, il y avait Cronenberg aussi, Existence avec le X en majuscule, bon bref. Et donc c'était le film de David Lynch avec un casting de fou, franchement, il y a alors, évidemment Laura Dern, tout le film tourne autour d'elle, elle est de tous les plans. Bon voilà, je crois qu'elle va concourir à l'Oscar de la meilleure actrice, il me semble. Il y a Justin Theroux qu'on avait vu aussi dans Mulholland Drive. Jeremy Irons, c'est la première apparition d'Irons dans l'univers de Lynch. Mais il y a aussi des apparitions, il y a Harry Dean Stanton, William H. Macy qui fait juste un caméo pour dire oh, attention, fin du plateau, tout le monde dehors. Et il y a aussi les apparitions de Laura Harring, la brune avec les gros seins, tu sais, Mulholland Drive. Qui est joué dedans, et il y a une apparition vocale de la blonde de Mulholland Drive, Naomi Watts. Alors ça raconte, alors je vais essayer de pas me planter parce que pour voir si j'ai un peu compris le film. Sabrina, tu me corriges. Alors il s'agit d'un tournage de film à Hollywood dont le réalisateur est Jeremy Irons, et c'est un couple, donc Laura Dern et Justin Theroux jouent le couple d'acteurs. Et ils apprennent en cours de tournage que ce film, en fait, c'est pas un scénario original, c'est un remake d'un film maudit polonais qui s'appelle 47. Alors en anglais, le titre polonais, bon, tout le monde l'a oublié de toute façon. Et c'est un film maudit car les deux acteurs principaux ont été tués. Et le film n'a jamais pu se faire. Et là, à partir de là, il y a les acteurs qui prennent connaissance de ça, et puis il y a l'actrice qui commence à faire la paranoïa, elle commence à s'inquiéter. Juste au moment où il dit ça, il y a quelqu'un dans le plateau, dans l'obscurité qui bouge, il y a quelqu'un qui dit qui c'est, donc l'autre va le pourchasser et tout. Et là, comme le film commence à partir en couille, déjà au début, de toute façon on est chez Lynch, alors il y avait des trucs bizarres. Déjà, il y avait une voisine un peu autant de sorcière qui vient alerter l'héroïne en disant attention, la proposition que vous allez accepter, il y a eu des morts déjà. Et alors l'héroïne en fait elle fait une crise de schizophrénie également, puisque on sait plus à un moment donné si elle est dans le film, si elle est dans sa vraie vie. Elle se projette aussi dans le film polonais avec des personnages qui parlent en polonais, qui vit dans une caravane. Au début elle est dans un manoir, enfin dans une grande maison avec des plein de tapis partout. Et franchement, d'habitude, tu dis Lynch génial parce qu'il a le scénario qui part en vrille, super, tu te fais embarquer dans ces histoires. Et là, franchement, t'as l'impression que tout ça n'arrive à rien. C'est-à-dire qu'il a tourné en DV, déjà. Donc toute l'éthique visuelle qu'il a expérimentée dans ses précédents films, ils sont tous resservis là. Il y a aucune nouveauté. C'est-à-dire, il fait clignoter les lampes. Il y a un travail sur le son. T'as les personnages qui sont filmés de travers, en gros plan et tout. Donc tu dis, oui, c'est bizarre, oui, mais j'ai déjà vu ça chez Mulholland Drive, dans Lost Highway, dans Twin Peaks.
En clair, voilà. C'est un grand concours pour le monteur, savoir qui c'est qui, où c'est qu'il a mis tel truc, etc.
Je crois que c'est lui qui l'a monté aussi, hein. Il a tout fait tout seul puisqu'il avait un budget assez rikiki puisqu'il tournait en DV, c'était son propre producteur. Il y a les Français de Studio Canal, ils ont dit ouais banco, vas-y, fais ce que tu veux, youpi. Et donc vraiment, ça c'est du n'importe quoi, c'est du foutage de gueule franchement, parce que le mec il invente plus rien dans ce film. Il fait juste une ressaucée de ses films précédents. J'ai vu un peu à droite à gauche sur le net, il disait oui c'est génial, genre Télérama, les Cahiers du cinéma, c'est génial parce que Lynch c'est un film somme, il livre tout ce qu'il a fait avant.
Enfin, en même temps, pour se dire, je vais me renseigner auprès du Télérama.
Non, j'ai pas m'enseigner, je suis allé voir pour voir s'il y avait des critiques rigolotes à refaire à l'antenne, parce que des fois on cite des extraits, vraiment ils sont à côté de la plaque. Et là ils disent film somme, bon voilà, Mulan Drive c'était déjà un film somme, et puis il faudrait qu'il passe à autre chose là. Ça fait 4 fois qu'il nous fait le même film, là ça commence à vraiment à bien faire. Le film dure 2h50 franchement. Sabrina, dès qu'on évoque le film, déjà elle a envie de vomir parce que ça t'a pas plu hein.
Pas envie de dormir, envie de dormir.
Oui, de dormir, ouais.
Surtout.
Oui.
Parce que, bon, faut dire aussi que j'étais un petit peu fatiguée à la base. J'ai commencé le film, je dirais 2 minutes plus tard, puisque je me suis dit, tiens, la bonne annonce. Ah non, c'était le film qui commençait. Pardon. Voilà, donc déjà, ça donne le ton.
Après, tu t'es trouvé mal assise, c'est jamais bon signe pour un film. La première fois que ça m'arrive, j'ai regardé 4 fois ma montre.
Il est temps pour lui que cela cesse.
Enfin, en général, on a une autre expression comme ça. Ça s'appelle une sortie technique.
Oui,
malheureusement, mais... ça n'est pas le cas.
Bah non, pour ne rien vous cacher, on est allé le voir à l'Utopia. L'Utopia, il passe des très bons films aussi ou des belles merdes. Alors, faut dire que t'es pas aussi bien assis que dans des multiplex. Donc, quand c'est un film super bien, bah tu regardes, tu vois pas.
Là,
mais
tu prends
mal à voilà, exactement. Et après, voilà, tu regardes la sortie de secours qui est allumée. Tu te remets dans ton siège. Voilà. Mais on s'est fait chier devant ce film. Et pourtant, mais c'est pas vraiment être allergique à Lynch, parce que franchement, d'habitude, on apprécie d'être embarqué dans des trucs dans plein de têtes. D'habitude, c'est toujours une phrase qui va se répercuter dans une autre scène, qui va amener progressivement un rythme assez particulier. Des mises en abîme, effectivement. Mais là, franchement, tu as juste un mot, il dit « Ah ouais, ouais, cette scène expérimentale, eh ben ça, c'est pour refaire écho à l'autre. » Et vous avez vu, il y a de la logique dans mon film.
C'est décidé, on n'ira pas voir ce film.
Eh ben, franchement, vous perdez rien. Inland Empire, c'est le nouvel opus de Lynch. Alors, franchement, on espère vraiment, honnêtement, que de tout cœur qu'il passe vraiment un autre style de film.
Est-ce que quelqu'un ici va venir m'aider?
Tu as oublié le nombre d'heures incalculables.
Eh oui, j'ai dit 2h50.
2h50, c'est horrible.
Presque 3h.
Au bout d'une heure, tu te dis, c'est vrai, ça fait 2h, non? Oh merde.
Voilà. C'est du pur Bollywood.
D'accord, ok, donc c'était bien nul.
C'était bien nul. Et maintenant, on va passer à une autre bouse. Mais dans un autre genre. T'as pas une petite musique genre autre pour faire la coupure, là?
Non.
Non?
On va laisser monter le truc.
On peut faire les bruitages, si tu veux.
Vas-y.
Taxi 4!
Non.
Ça aurait pu être ça, mais... C'est quand même une bouse divertissante.
Johnny, je suis ton père.
Sabrina est complètement déchaînée. Ça faisait longtemps que dans le supplément week-end, ça n'a pas autant décollé.
Donc nous allons parler maintenant de Ghost Rider.
Le film du siècle.
Le film du siècle, oui, tout à fait. Pour l'instant, le siècle, il n'y a que 7 ans qu'il est commencé. Donc, c'est un film de Mark Steven Johnson avec Nicolas Cage, Eva Mendes, Sam Elliott et Peter Fonda. Alors, après avoir conclu un pacte avec le diable, le motard cascadeur Johnny Blaze se transforme la nuit tombée en squelette enflammé. Il va devoir traquer Blackheart et ses 3 sbires avant qu'il ne récupère un contrat maudit et ne s'empare de centaines d'âmes déchues. Donc ça, c'est le pitch. Alors, voilà, donc, Mark Steven Johnson, le réalisateur, c'est lui celui qui a fait Daredevil.
Oh, merde.
Ah non.
Voilà, donc Daredevil, moi je l'ai pas vu. Sabrina, tu l'avais vu? Qu'est-ce que t'en avais pensé?
Oui, à chier.
Voilà. Donc,
Moi je suis pas du même avis, moi.
Ah, vous avez vu Daredevil?
Oui.
Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous?
Ah, bah attention, parce qu'autour de la table, il y a des gens qui sont très bon public aussi.
Mais accule pas, donc je zappe.
Bah, vas-y, dis ce que t'en as pensé, ce que tu as trouvé bien, qu'est-ce que tu
as. Non, mais attends, Sabrina vient de battre le record de la chronique la plus concise et la plus imbattable possible.
Oui. Ah, Daredevil, c'est plus que moi, déjà, c'est Ben Affleck, non, quoi. Là,
Bah ouais, c'est clair. Bon, Nicolas Cage, on peut dire qu'il s'en sort beaucoup mieux, hein. Parce que bon, c'est pas Ben Affleck. Nicolas Cage, il est.
Bah, il a plus de charisme que.
Il a plus de charisme, et puis malgré tout le mal qu'on pense de Ghost Riders, quand même, il essaie de sauver quand même l'intérêt à lui tout seul, et puis bon, il vaut quand même le détour. Parce qu'il est pas du tout cabot, bon, il fait ce qu'il peut dans les scènes de comédie et tout, c'est ce qui est pas mal. Et puis dès qu'il est remplacé par le crâne, là, ça se corse. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, c'est un nanar, hein. Voilà, pur nanar. toute tentative de chercher un minimum de cohérence dans cette daube, tu peux le foutre aux oubliettes. Parce que, alors, au début, on suit ses débuts de cascadeur avec son père, tu te dis, ouais, c'est cool, ça raconte une histoire et tout, ouais. Et puis, sauf qu'il passe un marché avec le diable, un marché de dupes. Et puis après, on voit qu'il y a des méchants qui arrivent. Alors là, ça se corse parce que les méchants, ils ont autant de charisme qu'un beignet, tu vois. mais maquillé avec du mascara pour que ça fasse gothique un peu. Et alors, le mec, il est en costume tout noir avec maquillage tout blanc qui brille et il dit, yeah, il parle que comme ça, ouais.
Et puis, les éléments, hein, le principe des éléments.
Oui, voilà. Ces trois sbires sont associés à des éléments élémentaires, on va dire.
L'eau. Le vent.
Le feu.
Non, l'eau, la terre et le vent. Le feu, c'est Johnny Blaze. Ouais. Et voilà. Alors les méchants. Il y a ça. Il y a Mephisto. Alors Mephisto, c'est Peter Fonda, puisque c'était pas vraiment un mauvais choix au début, puisque c'est lui qui jouait dans Easy Rider. D'ailleurs, il y a une petite blague au début quand il dit « chouette ta moto ». Et en fait, il faut savoir que la moto qu'a Johnny Blaze, c'est la moto qu'il avait dans Easy Rider, Peter Fonda. Uh-huh. C'est assez rigolo, les voilà. Et alors Peter Fonda, bah, il essaie de surnager, mais bon, on va dire qu'il cabotine vachement, lui, par contre. Et il est très mal dirigé par les réalisateurs, c'est-à-dire qu'il fait « Ah, je suis le diable, toi, tu vas passer à marcher avec moi et tout. » Et puis là...
Il dit que c'est son père.
Oui, c'est son père, en fait. Et non, c'est pas du tout son père, mais on peut dire comme.
Je cherche l'effet générateur de couilles sur le truc à effet.
Sauf que la réalisation, ça plombe un peu son jeu d'acteur, parce que chaque fois qu'il apparaît comme c'est le diable, il faut que ce soit vachement clippé, qu'il y ait des flashs de partout, des plans sur le ciel accélérés pour faire plus mystique, tu vois. C'est un peu raté, quoi. Et puis, on se dit, on va attendre les scènes d'action. Et les scènes d'action, les mecs, ils sont super figés, ils sont... Oh, j'ai une chaîne, attention, je vais t'envoyer ma chaîne. Oh, 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 je te prends par le cou et puis je regarde mes flammes. Tu vas manger ta mère avec ton âme qui va être détruite. Et alors, les mecs, ils se regardent dans le blanc des yeux et oh, je suis mort. Ouais, ça c'était la scène de baston. C'est super mou, le crâne, on dirait. Vous vous souvenez des ouf-travaux d'Astérix? Quand il y a les crânes qui jouent 15 partout. Ouais, eh ben, c'est pareil. Clair. Voilà, t'as le crâne, quand il se transforme en Ghost Rider, vous avez cru, vous avez été transporté quand il se transforme en Ghost Rider?
Non.
À fond.
Moi non.
Bon, attends, juste un truc, parce que tu es en train d'enflammer le film comme la tête du Ghost Rider. Super drôle. Mais juste pour sa défense,
bien tenté.
Je sais pas, dès le départ quand même, ils annoncent la couleur, parce que le film commence quand même avec le récit de la légende du Ghost Rider. Et alors c'est balancé vraiment, tu sais, avec la pauvre voix, tout ce qu'il faut pour que tu te dises oula merde, qu'est-ce que je suis venu voir, c'est un vrai nana.
Voilà, et là t'as des plans de désert dans l'Arizona et du Texas, et puis qui te disent oui, il y a une légende qui dit le Ghost Rider il travaille pour le diable, et à la fin il y a tout le speech, et à la fin il dit sauf que il y a certaines légendes qui sont vraies.
Le problème avec les légendes.
Et là, t'as le générique, bon, il tabasse un peu, parce que bon, c'est fait en 3D, il y a des flammes, il y a un effort dans la typo et tout. Je me suis dit, bon, on va assister au moins à un générique potable. Et puis après, on va un peu zapper sur tous les trucs de merde qu'il y a dans ce film, les scènes baston, les effets spéciaux, tout ça. Bon, quand même, le gros moment de bravoure du film, c'est quand il y a Ghost Rider, il commence à enflammer les routes en roulant, et là, il y a les bagnoles qui sont projetées sur les murs.
Ah, il en fait des dégâts, lui, tout ça. Et le plus drôle, c'est le lendemain. Dans la journée, évidemment, il y a plein de gens qui sont obligés de faire des travaux pour réparer la route partout où il est passé, quoi. C'est un sacré boxon.
Et tant qu'on est à raconter comment il roule, faut dire à un moment donné qu'il trouve un cow-boy qui s'enflamme lui aussi, parce que c'est l'ancien Ghost Rider.
Ghost Rider, voilà. On a eu la confirmation, celui qui était créé dans les années 50, et qui a été relancé. Enfin, le premier cow-boy, c'était en 49. C'est François Penon, hein. J'ai pris des cours auprès de lui, hein, rapidement, en accéléré. Et en 69, donc, ils ont relancé le Ghost Rider juste au moment de la production, justement, de Easy Rider.
Voilà, et donc le Ghost Rider, donc l'autre, il est tout vieux, et puis c'est quasiment un fantôme, et puis là, ils sont en train de chevaucher, on croirait « Born to be wild », et ils sont dans le désert du Texas, et on dirait « Bibi Coyote ». Là, ils sont cramés à l'essence, là, ils sont « Ouais, youpi, on chevauche ensemble pendant 500 km
!» Ce qui est tip-top, c'est qu'il n'est là que pour lui servir de GPS, quand même. Il l'amène là où il doit aller, et il lui fait un speech du genre « Oui, c'est la dernière fois que je pouvais me transformer. Je l'avais réservé pour toi. Salut, petit. » Et il s'en va.
D'accord.
Voilà. Bon, on va insister maintenant sur les deux points forts du film.
Aïe.
Le point fort du film, le premier, c'est les scènes de comédie. Parce que là, quand il n'y a pas d'effets spéciaux, on peut dire que c'est quand même assez honnête. Il y a le sens de la comédie. Bon, Nicolas Cage, il est assez rigolo parce qu'il y a quelques vannes bien senties et tout. Et l'autre point fort du film, bon, il y en a trois en fait. Parce que les deux autres points forts, c'est quand même les seins d'Eva Mendes. Je suis désolé, les filles. Hein.
Non. Sabrina, tu m'abîmes pas le Thomas. Tu laisses ce marteau en place.
Parce qu'il faut quand même dire, c'est que ça frise pas le ridicule parce que c'est vraiment dans un style BD. Il y a eu un cahier des charges sur la costumière. On croit que il y a toutes les tenues que porte Eva Mendes. Il faut que le décolleté soit de plus en plus pigeonnant. À la fin, c'est quand même. Ça... Bon.
En clair, c'était du Spice Girl, c'est ça.
Mais voilà, donc elle a les seins à l'air quasiment pendant tout le film dans son décolleté, mais elle a des tenues, mais vraiment indescriptibles. Et alors, faut quand même noter là sa première apparition en tant qu'adulte, parce qu'au début, elle y est en tant qu'ado. Elle est dans un plan même pas au ralenti, dans une construction symétrique dans un stade de foot américain. Et là, oui, tu te souviens de moi, je suis venu t'interviewer aujourd'hui. Voilà, Eva Mendes, c'est quand même le point fort du film. Hein. Je suis désolé. Nico, t'es d'accord avec moi?
Au niveau physique, c'est sûr.
Reconnaître que, évidemment, ils choisissent pas n'importe qui. Voilà. Bon, on a en face Nicolas Cage qui nous dévoile aussi son
c'est tablette de chocolat. Tablette. Tablette de chocolat parce qu'il sonne.
On était tous impressionnés. Mais c'est pas Nicolas Cage, hein, mais qu'est-ce qu'il a fait?
Voilà, il est super bien gaulé sur le torse. Certainement.
Plus que le torse.
Oui, il y a des plans où on le voit avec son blouson en cuir moulant, c'est ça ?
Est-ce que tu Non, mais il y a tout le torse, c'est-à-dire les bras les plaquettes.
Bref, quand voilà. T'es acteur, plutôt que de te payer une salle de muscu, demande à faire un film de super-héros et t'es sûr qu'on te retape, mais un truc de fou, quoi.
Par contre, il a dû en chier.
Voilà, ce qu'on pouvait dire sur Ghost Rider, il a dû en chier. On peut se consoler pour les fans de comics. Il y a les Quatre Fantastiques qui seront de retour à la poursuite du surfeur d'argent.
Oh non.
Non, pitié. Donc c'était Ghost Rider, un film de Mark Steven Johnson avec Nicolas Cage, Eva Mendes, Sam Elliott et Peter Fonda, et c'est actuellement dans les salles.
Attends, c'était pas Peter Fonda qui était justement dans le film d'origine?
Dans Easy Rider?
Ouais.
Eh ben, si t'étais pas allé voir en haut quand j'en parlais tout à l'heure, voilà, c'est ce que j'ai dit. D'accord, attention, okay. Excusez-le, il y a sa copine qui l'appelle au téléphone.
Enfoiré.
Xavier, on avait dit les téléphones fermés.
Oui, d'accord.
Donc on va laisser la musique.
Continue sur le cinéma, c'est le supplément week-end sur Radio FMR 89.1 MHz.
Alors, ce film suivant, on va vous parler de Cashback, qui vaut quand même vachement le détour. Alors, Cashback est un film de Sean Ellis, qui est photographe et réalisateur, adapté d'ailleurs d'un court-métrage par le même réalisateur, qui est d'ailleurs intégré au film.
Donc il a fait un court-métrage avant et il a intérêt à son propre long-métrage.
Ouais, exactement. Alors j'ai pas vu le court, mais indirectement tu l'as vu, hein, il est dans le film.
D'accord.
Voilà. Donc l'histoire c'est celle d'un jeune homme qui se fait plaquer par sa copine et qui à la suite de ça devient insomniaque. Évidemment il trouve le temps hyper long, il dort plus, c'est une catastrophe. Et donc pour occuper ce vide, il accepte un travail de nuit dans un supermarché. Où il va rencontrer des personnages tous plus hallucinants les uns que les autres. et se découvrir une sorte de pouvoir imaginaire, bien sûr, hein, mais d'arrêter le temps, qui va lui servir paradoxalement à l'écouler avec de l'intérêt. Voilà. Pendant ce temps qu'il arrive à figer, il observe, il regarde autour de lui, il voit des choses magnifiques et
il se cherche un boulot dans un magasin. Tu es le temps.
Oui, j'ai dit, j'ai déjà accepté là où j'en suis en fait.
Ah ouais, bah, si je suis.
Oh, ben, tiens, si en plus je me fais planter, c'est déjà pas facile. Bon, voilà.
Désolé, je dormais.
Donc, ce film, c'est pour résumer une superbe ode à la beauté. Alors, féminine principalement, hein, ça passe par là. Évidemment.
Oui, il faut souligner quelle est l'affiche du film.
Oui, c'est vrai. Sur l'affiche, on voit donc un intérieur un rayon de supermarché avec une jeune fille dénudée avec son petit panier de course à la main. C'est très très sympa. Et en fait, le film est tout à fait
recommandable.
Dans cet esprit-là, il y a une scène justement comme ça où le personnage se retrouve au milieu d'un rayon de supermarché et a complètement figé le temps. Donc tu vois plein de couples, de nanas qui sont là en train de faire leurs courses et qui se retrouvent raides, hein, et lui se met à se balader au milieu de tout ça, à regarder, à observer dans le détail, à déshabiller les jeunes filles, mais vraiment quoi, et puis à redessiner pendant des heures, t'imagines quoi, et à la fin il rhabille tout ça et puis il s'en va tranquille et il commence à te parler de ce qu'il vit, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur Cashback?
Bon, en fait, il fige le temps et puis il joue en dépassant les objets.
Ouais, exactement.
Ouais. D'accord.
Ouais, il y a quelques scènes comiques comme ça, effectivement. Et puis.
Il y a des personnages qui sont très attention aussi.
Ouais, dans le micro, avoir.
Ah oui, bon.
Tu disais.
Il y avait des personnages en fait qui étaient très très attachants dans le film.
Ouais, tous ses collègues en fait du supermarché sont
le patron,
tous hyper particuliers, mais ça c'est vraiment une comédie quoi. Tu te marres à plein de passages, donc c'est un film qui a vraiment plein d'intérêt quoi. C'est un peu une comédie sentimentale, romantique. Il y a beaucoup d'humour, tu te marres les trois quarts du temps, mais en même temps t'as des scènes de contemplation qui sont énormes.
Les bandes annonces que j'ai vues sur les chaînes anglaises sont assez hallucinantes. C'est comment ils jouent avec la nourriture et le matos.
Dans Cashback ?
Ouais. Il s'amuse à faire des courses, des trucs idiots, quoi, vraiment.
Oui. T'imagines ce que les gens peuvent faire dans un supermarché pour s'occuper parce qu'ils s'emmerdent, quoi. Hein. C'est-à-dire, enfin, c'est la nuit, il n'y a personne.
Les inventaires de supermarché, en général, t'as pas le temps de rigoler. Mais,
mais ça, c'est un film, aussi, ouais. Donc oui, c'est pas pareil.
Non, mais là, ils sont censés donc tenir la caisse, ranger, tout ça, et c'est vrai que c'est.
En tout cas, c'est à voir, quoi. C'est une vraie bouffée d'air, il faut aller le voir.
D'accord.
En tout cas, Nico était à côté de moi, il jubilait. J'ai pas comprendre. C'est jubilatoire pour les gens qui aiment les jolies filles à moitié à poil avec de super nichons. Donc,
d'accord, ça passe encore.
Ça. Ah, oui, ça passe
si on
encore.
Dit ça comme ça, ça passe pour un film érotique, c'est pas le cas.
Ah hein. Oui, mais enfin, c'est un peu ça aussi, quoi. Il y a des filles nues à poil. Enfin, tu diras pas le contraire.
Ah non,
mais voilà.
Mais ça fait partie, la manière dont c'est présenté, c'est vraiment
la
beauté.
C'est de l'érotisme,
quoi.
Soft, ouais. C'est quand même, voilà, c'est...
D'accord.
Et tu sens que l'intérêt du film, c'est dans la beauté de tout, quoi. Enfin, que le mec arrive à observer, à saisir la moindre chose dans des petits moments. Et le sujet complet du film, en fait, porte là-dessus, quoi. C'est vraiment savoir... Enfin, il parle d'amour aussi, donc à la fin, c'est... Il te révèle ça comme c'est à chacun en fait de savoir trouver l'amour et la beauté dans tous les petits moments de la vie, quoi.
D'accord.
Et ça finit bien. Il s'est fait plaquer au début, il retrouve une copine à la fin.
Donc tu menaces pour lui le film aussi. Tu n'es plus la peine d'aller le voir en fait.
Merci.
Le but c'est de ne pas révéler la fin.
D'accord, c'est vrai. Moi, j'ai pas
si tu pouvais retenir le but pour les 4 chroniques que tu vas me faire, ce serait sympa.
D'accord, j'essaierai.
Donc réannoncer le film dont vous voulez, dont vous venez de parler.
Alors
il s'agissait de Cashback. Qui doit encore être en salle dans certaines petites salles, hein, donc
non, on l'a vu
courez le voir si c'est pas encore fait. C'est
à la BC, je crois.
À l'Utopia.
À l'Utopia.
Voilà.
D'accord. Et c'est un film de Sean Ellis. D'accord.
Ok. Comme c'est Awa qui va prendre la suite, il faut qu'elle me dise lequel des deux disques elle voudrait que je passe. Si c'est Youssou N'Dour ou Brosselio. c'est lequel?
Bah, Ismaël Lo.
Ismaël Lo, d'accord. Ok, merci.
Quelle piste?
La 13, Tadio Bonne, voilà. Et pour donc une petite séquence autour du cinéma et de grand continent noir de l'Afrique. Quand tu veux, monsieur. Vous êtes sur FMR, voilà.
تفهم لي ما بين سطور كنت تنقد
Je m'étais trompé, ça arrive, hein, que voulez-vous? C'est celui-là.
Nous allons commencer notre rubrique portant sur des films qui mettent en image l'Afrique.
C'est sympa, un peu de couleur et de voix féminine dans cette radio.
Quoi, qu'est-ce que t'as contre les voix masculines?
Baston!
Ouais, bah, on se calme un peu, s'il vous plaît. Attendez. Awa va quand même parler de très beaux films. Le premier, c'est...
Le dernier roi d'Écosse.
Et c'est une...
C'est une adaptation du roman de Jill Foden. Qui est sorti le 14 février, donc il y a deux semaines, je crois.
Oui, donc il est encore en salle, voilà.
Il est encore en salle et je pense qu'il va rester en salle un peu, enfin, pour longtemps, parce que c'est un très très beau film et il est vachement réussi. Je vais laisser Nicolas faire le synopsis.
Partager l'étage, bravo.
Je fais que lire, c'est cool, comme okay. Ça me va.
Donc, pour le dernier roi d'Écosse, le scénario, en gros, synopsis, voici. C'est un jeune médecin écossais, tout juste diplômé, Nicolas Carrigan, qui débarque en Ouganda en quête d'aventure et décidé à venir en aide à la population. Mais peu après son arrivée, il est appelé sur les lieux d'un accident. Le nouveau leader du pays, Idi Amin Dada, a percuté une vache avec sa Maserati.
Mmh.
Ok. Ça commence comme une blague, mais en fait, pas du tout. Non, faut... la façon dont Carrigan maîtrise la situation, son calme, sa franchise, surprennent Amin Dada. Fasciné par l'histoire et la culture écossaise, il trouve le jeune homme sympathique et il lui propose de devenir son médecin personnel. Séduit par le charisme du chef d'État, le jeune médecin rejoint le cercle présidentiel au sein duquel il mène grand train. Bombardé, confident du dictateur, piégé au cœur de la mégalomanie meurtrière d'Amin Dada, Carrigan, témoin d'enlèvement et d'assassinat, devient malgré lui peu à peu complice d'un des plus terrifiants régimes africains du XXe siècle.
Alors c'est une histoire vraie?
Oui, c'est une histoire vraie avec une, enfin, avec une part de fiction, puisque lui, il choisit de nous présenter ce film, enfin, d'un point de vue subjectif, parce que c'est au travers le regard d'un jeune médecin écossais. Moi, j'ai adoré ce film. Enfin, je pense que je ne vais pas être seule, les gens qui iront le voir aussi. Le ton est donné avec le voyage dans un bus qui le mène dans un point de chute en Ouganda. On voit dès les premières images des images brutes de l'Afrique, puis l'histoire s'installe.
Alors, qui joue justement le dictateur? C'est une grande performance.
Oui, c'est Forest Whitaker. Il est fabuleux, mais il est fabuleux.
Tu l'as vu en VO ou en VF?
On l'a vu en VO. Ouais. Par contre, ça passe en VO et je pense que c'est mieux de le voir en VO.
Parce que c'est impressionnant, parce que oui. Moi j'ai vu des interviews de lui et après ça passait sur la VO, mais le travail qu'il a fait sur l'accent, sur la caractérisation, c'est énorme.
Oui, c'est énorme. Voilà, si on connaît vraiment Forest Whitaker et si on le voit dans. On a du mal à l'imaginer jouer ce rôle de méchant, de tyrannique, de parano, mais il est. Enfin, on a choisi le bon acteur pour une fois dans un film.
Je crois qu'il a été nominé ou récompensé deux, trois fois déjà pour ce film.
Il est aussi réalisé. En fait, en passant.
D'accord. Et il est nominé pour les Oscars de demain.
Je pense qu'il a reçu l'Oscar.
Peut-être, oui, une nomination et oui. Peut-être qu'il a reçu un Golden Globe, peut-être.
Oui, du meilleur acteur. Ouais, c'est voilà. Ça, ce qu'on a lu. Voilà, le Golden Globe du meilleur acteur. Enfin, j'ai pas fait de recherche par rapport à ça. Donc, une fois sur place, le médecin, le jeune écossais qui est joué par Gillian Anderson. Donc, c'est un acteur que je connais pas.
James McAvoy. McAvoy.
Gillian Anderson,
c'est celle qui jouait dans X-Files, tu sais. Et elle a un petit rôle, là, en fait. C'est la nana avec qui
c'est Dana
Scully au début.
Qui est dans le dernier roi d'Écosse.
Ouais.
Ah, d'accord.
Quand il arrive en Afrique et qu'il commence à bosser pour un organisme médical, il bosse avec deux personnes. Il y a un docteur qui est ici depuis un moment et sa femme. Et sa femme, c'est Gillian Anderson.
D'accord. Elle a maigri depuis ou non?
Je la connais pas. Je suis pas très
sensible au charme de Gillian Anderson.
D'accord.
Bon, je termine. Donc, il a été ravi par le climat et les rencontres exotiques comme tout occidentaux qui va en Afrique. D'accord. Comme tout occidental qui va en Afrique, il pensait sauver l'Afrique. Il est arrivé sur place avec plein d'idées en tête et tout. Mais bon, ça se passe pas comme ça parce que le pays est secoué par un changement de régime. Donc, Amin Dada a fait un coup d'état et il est le nouveau président de l'Ouganda. Donc, c'est une véritable allégorie à la naïveté occidentale, enfin, si je puis me permettre. Mais bon. Le film est intéressant dans la mesure où, comme le personnage principal, le docteur, on découvre Dada au fur et à mesure. On le découvre drôle, presque touchant, attachant et avec
un grand sens de l'humour.
La naïveté qu'il a eu à avoir pour pouvoir attirer le jeune écossais et tout. Mais après, petit à petit, on rentre dans le film et on découvre un Dada, monstre. Voilà, un monstre parano, manipulateur qui n'hésite pas à tuer tous ses opposants. Et tout. Enfin, le seul problème, c'est que voilà, on évoque ce film à partir de ce regard, et donc on passe sur beaucoup de choses. On ne voit pas tout à fait, enfin la véritable histoire de Dada par rapport à son pays et tout, mais juste sous le lien qui lie Dada au jeune médecin. Mais c'est quand même, il faut aller le voir. On s'attarde peut-être sur les liens entre deux personnes, mais c'est un film qui est profondément inspiré de faits réels, donc c'est un film qui
parle. Amon Dada, il a été au pouvoir pendant 20 ans, si je me souviens bien, jusque dans les années 80.
Il a été au pouvoir jusqu'aux années 80. Il a été mis au pouvoir par les Anglais qui l'ont
lors de la décolonisation,
aussi, voilà, l'ont destitué après. Et il vouait, enfin, une véritable admiration à l'Écosse, donc aux Écossais.
Et quel a été le bilan humain justement de ces dictatures? Je crois que ça a été
plus de 300 000 morts. De 300 000 morts. Enfin,
donc, c'est ça qui t'a gêné, c'est le fait qu'on n'ait pas justement fait suffisamment.
Voilà, on a juste parlé de temps à autre des opposants qu'on a tués. On nous a montré des cas et de gens qui l'a tué et tout, mais sans vraiment nous montrer cette terreur qui qualifiait Amin Dada.
Voilà. D'accord.
Donc aussi, s'il y a des gens qui sont intéressés pour approfondir un peu plus sur Amin Dada, j'ai fait quelques relevés, des références par rapport à sa bibliographie. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas eu de bibliographie véritable où lui, il l'a demandé. Donc tout ce qui a été dit ou écrit sur Amin Dada, c'est des recherches qui ont été faites par des journalistes, ce genre de choses. Il y a Amin Dada ou les sombres exploits d'un sergent de l'armée britannique de Pierre Merle. Il y a qui est Amin Dada de Denis Ropa et Amin Dada de Eric Wiedemann. Pour les filmographies d'Amin Dada, donc il y a eu un documentaire qui a été sorti en 78, un document de Barbaret Schroeder, donc que je connais pas du tout.
Barbaret Schroeder, c'est un réalisateur qui vient des Cahiers du cinéma et qui est d'origine française et qui a fait pas mal de films pour Hollywood, donc notamment il a fait Before and After avec Liam Neeson, il a fait pas mal de films, il a fait L'Enjeu avec Michael Keaton aussi. Il s'est progressivement dirigé vers des films de genre, mais surtout au début, c'était quelqu'un vraiment d'engagé avec une sensibilité européenne.
D'accord, voilà. Et aussi, il y a Raid sur Entebbe, parce qu'il faut savoir qu'Entebbe, en fait, c'est une ville en Ouganda où plein de massacres se sont faits sur. Qui ont été perpétués par Amin Dada. D'ailleurs, on n'en a pas parlé dans le film. Perpétrés par Amin Dada. D'ailleurs, on n'en a pas parlé dans le film. Mais les gens qui connaissent un peu l'histoire vont être un peu déçus. Mais bon, on ne peut pas tout traiter dans un film. Et il a choisi de traiter un côté et c'est pas mal du tout.
Donc, c'est ça qui t'a gêné, c'était plus l'angle.
Voilà. Et certains pensent que c'est un film américain. Non, c'est un film anglais qui a été réalisé par Kevin MacDonald. Voilà.
D'accord.
Ok, on reste toujours dans les grands massacres et les guerres, disons pas très claires, pour embellir la femme.
Alors on va passer à Blood Diamond.
Oui, oui.
Alors Blood Diamond avec Leonardo DiCaprio, Jimon Unsoon qu'en fait moi je ne connaissais pas, mais
Thomas aussi m'a
parlé un peu.
Jimon Unsoon,
il a joué dans énormément de films, il a été mannequin, enfin bon, il a fait un paquet de trucs avant. Et Jennifer Connelly,
il a été révélé surtout dans Amistad, hein, c'est lui qui faisait l'esclave, le héros.
Et il est d'origine béninoise, soi-disant, pas ça, parce que beaucoup pensent aussi que c'était un américain, mais c'est un français, il a pris la nationalité française.
D'accord.
Il a toujours cette nationalité.
Voilà. Donc le.
Tu disais Jennifer Connelly.
Et Jennifer Connelly.
Ouais. Calme un peu. Ouais.
Chut, Thomas. Non, Sabrina. On ne tape pas.
Ça devient dur de gérer une équipe comme ça.
Donc en fait, Archer, qui est joué par Leonardo DiCaprio, purge une peine de prison pour trafic de diamants. Et Solomon Vandy, qu'il va rencontrer, est un pêcheur d'origine Mende, qui a été arraché à sa famille et forcé de travailler dans les mines diamantifères, et qui a trouvé un diamant rose extrêmement rare. Donc il est poursuivi pour ça, il l'a planqué, mais c'est ce qui va faire un peu la trame du film. Ils sont accompagnés de Maddie Bowen, qui donc est jouée par Jennifer Connelly, qui est une journaliste idéaliste, et ensemble, les deux hommes vont s'embarquer pour un dangereux voyage en territoire rebelle pour récupérer le fameux caillou.
Alors, il faut peut-être expliquer ce que veut dire l'expression Blood Diamonds. C'est des diamants qui viennent en fait des zones de guerre, justement.
Oui. Exactement. Mmh.
Et qui servent à financer les trafics d'armes et donc.
Enfin, ils mettent, enfin, les trafiquants mettent en place en général ces guerres pour pouvoir extraire sans problème, sans difficulté, parce que les populations, ils ont d'autres idées en tête que de pouvoir surveiller des gens qui viennent extraire des matières premières. En fait, je pense que c'est tout un complot autour et que c'est pas juste. En général, les populations locales, ils n'ont pas les moyens de se payer des armes ou ce genre de choses. Mais les trafiquants, ils font. Ils font rentrer, voilà, financement.
Les conflits.
D'ailleurs, il y avait déjà un éclairage très pertinent sur les diamants de la guerre dans Lord of War, déjà, d'Andrew Niccol. Mmh.
En tout cas, les gens qui sont intéressés par les diamants, ils doivent pas aller voir ce film parce qu'ils vont en sortir un peu traumatisés et ils vont culpabiliser. Moi, je pense que c'est quand même un très beau film, bien rythmé, bien filmé, émouvant et qui est peut-être violent, mais sans être forcément, enfin, il n'y a pas de voyeurisme. Je sais pas si on peut dire ça.
Oui, mais est-ce qu'on on explique bien.
Voilà,
justement
on
tout
explique
cet aspect,
bien. Voilà, ça traite vraiment certaines situations qui sont dramatiques en Afrique, à savoir les enfants soldats. C'est traité avec sans pour autant prendre part, mais il montre des cas réels d'enfants soldats, comment ça se passe psychologiquement et tout par rapport à leur famille, comment ils sont arrachés à la famille, voilà. Donc des trafics de matières premières. Là, on a le diamant. Les rebelles qui s'installent en Afrique aussi. C'est un film réaliste qui peut pas laisser indifférent. Donc je pense que il faut aller le voir, mais au sensible, il faut amener des mouchoirs parce que moi j'en ai versé. Donc je pense que il est beau, mais il faut aller le voir et c'est très engagé et c'est vachement bien.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le réalisateur Edward Zwick, c'est quelqu'un qui est quand même habitué d'habitude à faire des grandes épopées hollywoodiennes avec pas beaucoup de sens derrière, même si c'est quand même assez épique. C'est lui qui avait fait Glory, l'épreuve du feu, il avait fait le dernier samouraï, il avait fait Légende d'automne avec Brad Pitt. C'est pas vraiment des films engagés. Hein.
Oui, voilà, c'est ce que je dis en fait. En général, quand on traite des films, en général, en Afrique, que ce soit en Afrique, que ce soit même si c'est des faits réels et tout, et que c'est des films engagés, il y a ce côté hollywoodien, il y a ce côté cinéma qui souvent met de côté les véritables problèmes de l'Afrique. Donc même si Le Dernier Roi d'Écosse ou Blue Diamond, c'est des beaux films à aller voir, surtout si on aime l'Afrique et que si on est touché par les problèmes qui secouent l'Afrique, ne changera cependant rien aux idées que l'Europe se fait de l'Afrique, en fait. Des dictateurs africains, responsables de la misère, enfin soi-disant des pays qui saignent, ni sans doute aux idées que se fait l'Afrique des cinéastes européens, américains ou ce genre de choses. Et pour changer, on va voir d'ailleurs deux films qui ont été faits par des réalisateurs africains, par des acteurs africains, donc qui nous donnent un autre regard, pas un regard seulement misérable ou un peu naïf de l'Afrique, mais un nouveau regard.
Donc le premier de ces films, c'est Bamako.
Ce sera Bamako, suivi de...
Africa Paradis.
Un film
justement, c'était le réalisateur était invité d'ailleurs chez Canal Plus il y a pas longtemps, où il racontait c'était l'inversion des réactions des gouvernements qui sont plutôt protectionnistes. Il renversait en fait, il disait c'était un couple de Français qui voulait aller en Afrique.
Donc au-delà des dérives des pouvoirs pessimistes en Afrique, nous allons passer à autre chose. Mais enfin, vous me direz que Bamako c'est un peu dans le même genre, mais Bamako c'est la parole donnée aux Africains. Enfin, on les écoute. Donc le réalisateur il fait une enquête sans pour autant faire des coupures. Il prend tout à l'état brut et il nous donne tout à l'état brut. Donc c'est une tribune qui se place en plein cœur dans une maison au Mali. Donc c'est la maison du grand-père du réalisateur. Avant d'entrer dans le film, je vais laisser Nicolas faire le synopsis.
Alors, justement, en gros, tu viens de le lancer, hein, mais donc ça met en scène Mele, qui est une chanteuse de bar, qui est jouée par Aïssa Maïga, hein, toujours superbe.
Les poupées russes en passant, pour ceux qui ne connaissent pas.
Son mari Chaka, qui est sans travail, et donc leur couple qui bat un peu de l'aile, quoi. Et dans la cour de la maison qu'ils partagent avec d'autres familles, on a installé un tribunal. Et c'est des représentants de la société civile africaine, en fait, qui ont engagé une procédure judiciaire contre la Banque mondiale et le FMI, qu'ils jugent responsables du drame qui secoue l'Afrique. Entre plaidoirie et témoignage, la vie continue dans la cour. Tchaka semble indifférente à cette volonté inédite de l'Afrique de réclamer ses droits. Mais donc on a, il y a plusieurs choses dans le film. Il y a vraiment un truc du quotidien pour le couple et surtout cette espèce de procès imaginaire. Mais
donc c'est un procès symbolique en fait.
Voilà, c'est un procès symbolique qui n'engage à rien parce que enfin.
Et c'est uniquement la couverture de ce procès symbolique qui est raconté dans ce film.
Non, enfin il y a un regard autre qui se fixe pas seulement sur le procès puisqu'on voit la vie quotidienne d'autres, enfin du village. On voit le teinturier, on voit la femme qui travaille pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc on voit des gens qui sont vachement engagés, qui ont envie de venir crier leur ras-le-bol devant ce tribunal. Et il y a d'autres qui s'en foutent pas mal de ce qui se passe. Donc, enfin, c'est un peu ça le regard de l'Afrique. Il y en a qui sont vachement, qui ont envie que les choses changent, qui ont envie que les choses bougent, donc qui viennent pour parler de leurs soucis et autres. Et il y en a qui sont tellement fatalistes qu'ils se disent que de toute façon, un tribunal ou un autre ne changera rien. On retrouve donc les protagonistes d'eux qui sont la partie civile et la défense. La partie civile est représentée par des avocats mixtes. Il y a des Français. Par contre, c'est vraiment de véritables juristes. C'est pas que des acteurs. On retrouve entre autres l'Intelligentsia Africa. Il y a Aminata Traoré qui est une écrivaine très célèbre au Mali. Il y a Aminata Talsal qui est juriste au Sénégal et aussi qui a été ministre de la Justice. Voilà. Donc on retrouve ce monde qui est mêlé et qui veut faire soi-disant le procès de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, sans pour autant faire abstraction de ce que vraiment pensent les populations. On est vraiment au cœur de ça. On s'intéresse aux populations locales, à leurs problèmes, ce genre de choses. Donc je pense que c'est un film aussi qui est super bien.
Donc si c'était Bamako.
Voilà, c'était Bamako.
D'accord. Et donc on va pas.
Il est plus à l'affiche, mais il faut guetter la sortie en DVD qui, je pense,
il est arrivé quand en salle.
Ça doit faire 3 mois, non?
Oui, ça va faire 3 mois, oui, donc bon, il va arriver.
Encore quelques 3 petits mois encore.
Voilà. Puis, normalement, ça devrait sortir. Voilà.
Et le dernier, c'est Africa Paradis.
Voilà, c'est Africa Paradis. Il n'est pas encore sorti. Il ne va pas tarder à être dans les salles. Normalement, il sort la semaine prochaine, mais on ne sait pas dans quelle salle.
Dans peu de salles,
malheureusement. Voilà, dans peu de salles. Apparemment, c'est dans 6 salles en France. On ne sait pas si on aura le plaisir de le voir à Toulouse. Et pourtant, c'est un film qui traite de ce qui se passe actuellement, de l'immigration, des problèmes des immigrés et tout. Pour ceux qui suivent l'information de ce qui se passe en Espagne, dans les frontières, pour les Africains qui viennent immigrer ou ce genre de choses. Et on voit notre regard. C'est vraiment un film optimiste pour les gens qui ont envie d'une Afrique nouvelle, d'une Afrique qui n'aura plus besoin d'immigrer, mais au contraire d'une Afrique qui appellerait les gens à venir. Donc c'est
un peu retournement de situation. C'est une fiction qui met en scène un futur où l'Afrique serait devenue réellement un paradis et où ce serait les Occidentaux justement qui chercheraient à immigrer en Afrique. Quoi.
Ce film se passerait donc en 2038. C'est pas maintenant. Je vais faire le synopsis. Je pense que ça va vous parler beaucoup plus. Dans un futur imaginaire, l'Afrique est entrée dans une ère de grande prospérité, tandis que l'Europe a sombré dans la misère et le sous-développement. Vous voyez, c'est vraiment pas demain la veille.
Olivier,
quoique.
On s'avance quand même, je trouve.
Je dirais pas tant mieux, mais on prendrait quoi, je crois. Olivier, informaticien sans travail, vit avec Pauline, institutrice, elle aussi au chômage. Donc c'est des Français. Vu leur situation déplorable en France, ils décident de tenter leur chance en Afrique où ils immigrent clandestinement. À peine arrivés, ils sont arrêtés par la police des frontières et incarcérés dans une résidence de transit, en attendant d'être renvoyés en France. Donc, ce qui se passe actuellement pour certains de mes compatriotes. Olivier parvient seul à s'échapper. Il commence alors une vie de clandestin, jusqu'au jour où il récupère des papiers en dossier d'identité d'un blanc tué dans un accident de voiture. Entre-temps, Pauline accepte un poste de bonne dans une famille bourgeoise africaine. Donc, tout ce qui se passe actuellement. Donc, enfin, ce film est de Silver Amousson. Je sais pas si les gens connaissent, mais il a joué dans le Grand Appartement. Il joue dans le Grand Appartement actuellement. Je sais plus si c'est à l'affiche.
Non, c'est plus, ça n'y est plus. Non.
Voilà. Donc, c'était Et Rire et Châtiment.
D'accord.
Pour ceux qui ont vu, voilà, il jouait Mort de Rire Black. Je sais pas si vous connaissez. Donc, c'est un film entièrement réalisé par un Africain avec des acteurs africains, distribué par Métis Pro, donc aussi africain. C'est peut-être, je pense, c'est ça le souci. La distribution, c'est ça qui pose problème, ce qui fait que ça sortira peut-être que dans deux salles si sorti il y a. Ce film, en fait, c'est une position nouvelle qu'un Africain a sur l'Afrique et qu'un Africain voudrait voir aboutir un jour. Donc, il arrive aussi en pleine campagne électorale. Il faut savoir que c'est dans deux mois et pour beaucoup, l'immigration pose toujours problème pour les Africains, et sachant que Sarko fait partie des principales personnes qui posent des problèmes par rapport à l'immigration, je pense que c'est un film qui devrait au contraire
Dis pas du mal de mon idole, toi.
Si, je dis pas du mal, mais bon, je pense que, enfin, moi, si j'étais proche de Sarko, je lui offrirais ce film. Enfin, je l'obligerais à aller voir ce film, tu à se dire que tout peut changer et que, enfin.
Tu penses que le renversement de situation est plutôt un point de vue intéressant, toi?
Ah oui.
D'accord.
Moi, je pense que, enfin, c'est un bon, parce que je pense que les gens, ils ont plutôt peur de ce qu'ils connaissent pas. C'est ça le problème. Et les gens, ils se rendent pas compte de ça. On n'a pas peur vraiment de l'immigré ou de l'étranger, mais on a peur de la chose qu'on connaît pas. Et après, si on se met à la place des gens qui immigrent ou ce genre de choses, je pense que c'est un bon point de vue et que entre parenthèses, les gens qui sont racistes ou qui ont peur des immigrés devraient aller voir ce film et se dire qu'un jour ou l'autre, peut-être, il peut y avoir un revirement de situation et que ça peut ne pas être top. Voilà.
D'accord. Donc le film en question, c'est Africa Paradis de...
Voilà, et Africa Paradis de Sylvestre Amousou, qui sortira le 28, la semaine prochaine.
La semaine prochaine, donc le 28 février.
Voilà,
okay.
Donc il faut guetter les salles et on en reparlera peut-être si l'occasion nous est permis.
D'accord. Bah, merci beaucoup Awa pour cette chronique.
Mais non,
c'était une première fois, mais c'était joli, merci.
Merci.
Et c'est là-dessus que on clôt le supplément week-end. Ma foi, mais zut, excusez-moi, c'est pas à peine faire autant de bruit. Thomas, peux-tu me faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route ?
Eh oui, déjà, ce qu'il faut les savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous étions accompagnés. Il y avait Awa, Nicolas et Sabrina parmi nous, plus Chantal qui a fait office d'assistance. Et donc, on a eu un effet sonore qui n'a pas marché, une interview de Malka Eris qui a été diffusée, enregistrée à Angoulême. Beaucoup de livres chroniqués, des films sur l'Afrique et sur les Africains, faits par les Africains ou les Occidentaux. On a eu du squelette enflammé, une erreur de programmation de CD, du sport n'était pas avec nous. Et nous avons annoncé déjà des programmes assez alléchants pour les émissions à venir.
À savoir donc pour les prochaines émissions, la semaine prochaine c'est une spéciale Gaston Lagaffe pour les 50 ans de Gaston et donc un album commémoratif qui devrait arriver mercredi prochain. Il y aura aussi une spéciale nouvelle manga et gros foutoir au bureau. Le 17 en direct sur ce plateau on aura Benjamin, le 31 Alexandre Astier pour Camelot et après plein d'autres choses. Ceci dit, nom d'une cocarde républicaine, ils ont manqué tout ça là déjà ?
Eh oui, tout ça, parce que cette émission a duré 2 heures. Du sport n'était pas avec nous aujourd'hui.
Heureusement, ils peuvent réécouter cette émission en allant sur le site internet de la radio www.radio-fmr.net ou sinon vous cherchez dans votre Google favori supplément week-end MP3 et vous pouvez télécharger, vous abonner et
Et puis, si vous aimez MySpace, sachez que FMR a sa page maintenant.
Non, fais pas de pub pour le groupe News Corp et pour Fox News. C'est une erreur la page
radio,
MySpace.
Radio FMR a sa page MySpace.
C'est de la merde. Il fallait vraiment pas. Ça, franchement, je suis absolument contre. C'est fait.